السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله en cette soirée du mercredi 15 صفر 1435 de l'Hégire, correspondant 18 décembre 2013. بإذن الله تعالى. Donc, avec le dogme du monothéisme de Cheikh Fawzan Hafidhahullah, dans le 22e cours. Le cours d'aujourd'hui, le titre, c'est l'hypocrisie, sa définition et ses catégories. Avant cela, on avait parlé de, si vous vous rappelez, de shirk, naam, et yani, sa définition et ses catégories. Ensuite, la fois passée, on avait parlé de la mécréance, sa définition et ses catégories. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va parler de l'hypocrisie, sa définition et ses catégories. On va commencer par A, sa définition. A, sa définition. Littéralement, non, yani étymologiquement, en ce qui concerne le sens littéraire, le terme nifaq, nifaq, l'hypocrisie est le nom d'action tiré du verbe nafaqa. Nafaqa. Il a fait le nifaq, nafaqa en arabe. Il est dérivé du terme nafiqa, ici il a dit, en français. Une des sorties du terrier de la gerboise. Il a dit ici, petit rongeur d'Asie et d'Afrique, dans les pattes postérieures, quatre fois plus long que les antérieurs, lui permet d'effectuer de grands bonds. Donc, c'est une des sorties du qui, lorsqu'on essaie de l'attraper par l'une des sorties, s'échappe par l'autre. On dit aussi que le terme nifaq vient de un nafaq, nafaq, qui est une galerie souterraine ou un trou dans lequel on se cache. Ça s'appelle nafaq. Dans la terminologie islamique, le mot nifaq, hypocrisie, signifie le fait de montrer son apparence à l'islam et la bienfaisance, et en même temps de dissimuler la mécréance et le mal. Et le mal. Le mot nifaq, hypocrisie, signifie en islam le fait de montrer son appartenance à l'islam et la bienfaisance, et de dissimuler en même temps la mécréance et le mal. Donc, c'est-à-dire deux visages, si on peut dire, deux visages. Je montre que je suis musulman et que j'aime le bien. Alors que dans mon cœur, il y a quoi? Il y a, oudoubillah, la mécréance et le fait de vouloir le mal. Et le mal. L'hypocrisie a été nommée ainsi en arabe du fait que l'hypocrite entre en islam d'une porte et on ressort de l'autre. On a dit une fois, si vous vous rappelez, que chaque mot en arabe, chaque mot hein, qui existe dans la religion, chaque mot a une relation entre son sens étymologique et son sens religieux. On l'a dit la fois passée. Hein. Chaque mot religieux a une relation avec le mot lui-même littéraire. Car il est littéraire, ensuite il devient religieux. Ici, quand on a dit nifaq, certes, on a dit que ça, c'était dérivé de quoi? Du verbe nafaqa, nafaqa, naam, et du verbe nafiqa, une des sorties du terrier de la gerboise, qui, lorsqu'on essaie de l'attraper par l'une des sorties, s'échappe par l'autre. Donc il a deux sorties. Il rentre par là, il sort par l'autre. Donc voilà la relation avec l'hypocrite. L'hypocrite aussi a deux portes. La porte de l'islam par laquelle il rentre et une autre sorte, une autre porte de là-bas de laquelle il sort. Donc, car il est mécréant dans son cœur. L'hypocrisie a été ainsi nommée en arabe du fait que l'islam, l'hypocrite, entre en islam d'une porte et en ressort de l'autre. C'est pourquoi Allah Azzawajal a attiré l'attention sur cela en disant, lorsqu'il a dit, dans le Coran, il a dit: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. نف 67. إن المنافقين هم الفاسقون. C'est ça le témoin. Les hypocrites hommes et femmes appartiennent les uns aux autres. Ils commandent le blâmable, interdisent le convenable et replient leurs mains d'avarice. Ce sont des avares. Ils ont oublié Allah Azzawajal et il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. Le témoin, c'est quoi? En vérité, les hypocrites sont les pervers. Non. Donc, ici, il a cité quelques défauts des hypocrites. Entre autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils commandent le blâmable au lieu de condamner, de commander le bien. Ils commandent le blâmable et interdisent le convenable. Non. Au lieu de commander le convenable, ils interdisent le convenable. Ils sont des avares, ils replient leurs mains d'avarice. Il a dit, ils ont oublié Allah Azzawajal et il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. Ce qui m'a un peu touché dans tout cela, c'est que celui qui a traduit, a fait la traduction, a dit, ils ont oublié Allah et Allah Azzawajal les a alors oubliés. Ce qui va faire quoi? Une très grande ambiguïté à quelqu'un qui est débutant dans la religion et qu'on n'est pas bien son dîn, qui est par exemple reconverti, hein, même si c'est un musulman, un ancien musulman, mais c'est pas quelqu'un qui demande la science, donc il va dire que Allah subhanahu wa ta'ala oublie. Car il a dit, ils ont oublié Allah ta'ala et il les a alors oubliés. Donc Allah ta'ala oublie et peut oublier. Astaghfirullah et a'oudou billah. Pour dire que c'est vraiment étonnant que, pourtant, cette traduction, c'est l'officiel de Médine. Subhanallah, c'est étonnant, c'est étonnant. Nous, on dit, on oublie, c'est pas possible. D'ailleurs, Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. 1964, c'est-à-dire, nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur, à lui tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous et tout ce qui est entre les deux. Ton Seigneur n'oublie rien. Ton Seigneur n'oublie rien. Ton Seigneur n'oublie rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé à Jibril, alayhi salam, il lui a dit, ça fait longtemps que tu n'es pas venu me voir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontré. Allah Ta'ala fait descendre ce verset pour dire, ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. Jibril veut dire, alayhi salam, c'est pas moi qui choisis et viens quand je veux. Quand je viens te voir, c'est par ordre de ton Seigneur. Al-Mu'im, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Ton Seigneur n'oublie rien. Ton Seigneur n'oublie rien. Et là, ça me rappelle une chose. Que plus la personne connaît les langues étrangères, plus c'est un atout pour quelqu'un qui fait la da'wah. Si c'était possible de connaître cinq ou six langues, par exemple le français, l'arabe, l'allemand, l'italien, l'espagnol, les langues les plus répandues, quelqu'un, il aurait, mashallah, fait beaucoup, beaucoup de résultats, inshallah ta'ala, dans la da'wah. Regardez ici, par exemple, celui-là qui a traduit ce livre. Il a traduit le livre de qui? De Cheikh Fawzan Hafidhahullah. Est-ce que Cheikh Fawzan Hafidhahullah, s'il connaissait le français, il aurait laissé celui-là qui a traduire comme ça et dire que, yani, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allah les a oubliés. Sûrement pas. On revient pour dire que c'est très essentiel de connaître l'arabe. Nasiya en arabe. Nasiya en arabe a deux sens. C'est d'après le contexte. Des fois, ça veut dire oublier et des fois, ça veut dire délaisser. Ici, dans ce contexte, ça veut dire Allah Ta'ala les a délaissés. Et les délaissera yom al-qiyama. Naam. Nasullah fa'ansahum anfusahum. Naam. Et aussi les délaissera yom al-qiyama et non pas les oubliera. Car Allah Ta'ala n'oublie point. Cheikh dit, Cheikh Fawzan Hafiroy, il a dit, c'est-à-dire ceux qui sont sortis de la religion. Lorsqu'il a dit en vérité, les hypocrites sont les pervers, il a dit, c'est-à-dire ceux qui sont sortis de la religion, de la religion. Car il a dit, en bas la note, il a dit, elle fait ce qu'on les pervers, elle fisque, la perversité, signifie dans la langue arabe le fait de sortir. D'où le commentaire de l'auteur, ils sont sortis de la religion. Donc, car en arabe, elle fisque, ça veut dire le fait de sortir. Pourquoi on appelle par exemple la souris? On appelle Fouaïsika. Fouaïsika. C'est-à-dire la petite perverse. Pourquoi la souris on appelle la perverse? Qu'est-ce qu'elle a fait la pauvre? Parce qu'elle sort du trou. Elle a un trou duquel elle sort. Ensuite elle fait ce qu'elle veut, elle rentre dans le trou. Donc le fait de sortir, le prophète Sam l'a appelé elle Fouaïsika, la petite perverse. C'est-à-dire ceux qui sont sortis de la religion. De plus, Allah Azzawajal a désigné les hypocrites comme étant pires que les mécréants. Les hypocrites comme étant pires que les mécréants. Il a dit, Allah Azzawajal, il a dit dans le Coran, Inna al-munafiqina fi d-darki al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira. 415. Les hypocrites seront certes au plus bas du feu. Et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Les hypocrites seront en Yom al-Qiyamah, quand ils seront en enfer, ils seront hauts, au plus bas du feu. Et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Les savants ont dit le feu, plus la personne y descend dans Jahannam. Si la personne rentre à Jahannam, c'est, yani on descend. Plus on descend, plus c'est douloureux et c'est yani, enflammé, c'est chaud, c'est. Et plus on monte, yani, ça commence à yani, diminuer, à diminuer. Donc, dans le plus bas fond, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura les hypocrites, a'oudou billah. L'hypocrite, c'est un kafir ou c'est pas un kafir? C'est un kafir. Et le mécréant, c'est un kafir. Les deux sont des kuffars. Mais l'hypocrite, yani, sa punition sera plus grande que celle du simple mécréant. L'hypocrite. Comme par exemple Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête des hypocrites, son adab sera plus grand que par exemple Abu Jahl ou bien Abu Lahab ou bien. Pourquoi? Parce que les autres c'était seulement des mécréants. Mais celui-là, c'était un hypocrite et la tête des hypocrites. C'est pas la peine de dire pourquoi son adab, son châtiment est plus grand, parce que comme on l'a dit une fois, le mécréant, le simple mécréant, d'un côté, il a été sincère. Il a dit, moi, je suis mécréant, je ne crois pas en Allah. Et ça s'arrête là. Donc, c'est ton ennemi, yani, que tu vois, que tu peux éviter par conséquent. Car tu sais que c'est ton ennemi. L'hypocrite, non. L'hypocrite t'a rusé. T'a dupé. T'a trompé. En te montrant l'islam. Tu l'as même peut-être marié avec ta fille ou ta soeur. Il est là du matin au soir avec toi dans les prières de la mosquée. Sauf bien sûr, Sobh el Isha. Et il est là dans les fêtes, il est là dans le djihad. Où tu es, il est là avec toi au Hajj. Subhanallah al-Azim. Donc tu lui racontes des secrets, tu lui dis des choses, alors que il ne croit pas en Allah Azzawajal. Et non pas, non seulement il t'a trompé, mais il croit aussi avoir trompé Allah Azzawajal. Mais il ne peut pas. Il peut nous tromper, nous, mais pas celui qui l'a créé, et celui qui connaît. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en est au plus profond de son cœur. Dame. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Allah Ta'ala dit également, en parlant des hypocrites, il a dit, Inna al-munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Inna al-munafiqina يخادعون الله وهو خادعهم. 442. Les hypocrites cherchent à tromper Allah Azza wa Jal, mais Allah retourne leur tromperie contre eux. Les hypocrites cherchent à tromper Allah Azza wa Jal, mais ce n'est pas possible. Alors Allah Ta'ala retourne leur tromperie contre eux. Il a dit encore, يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون et aussi وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Al-Baqara 9. C'est-à-dire, ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne se trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne se trompent qu'eux-mêmes dans le sens où, ils ne peuvent pas ruser Allah subhanahu wa ta'ala d'un côté. Et de l'autre, ce sont eux les grands perdants. La preuve qu'ils se trompent eux-mêmes, c'est qu'ils sont en train de se jeter dans le plus bas fond de l'enfer et ils ne savent pas. Eux, qu'est-ce qu'ils croient ? Ils disent, Alhamdoulilah, nous, on a trompé les croyants, ils ne savent pas qu'on est mécréants dans nos cœurs. Et on a peut-être même qu'on peut tromper Allah Ta'ala, il va nous rentrer au paradis. Parce qu'on a montré qu'on était musulmans, on disait, la ilaha illallah, on allait au Hajj, etc. Mais en fait, ils se trompent eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de se jeter dans le plus bas fond de Jahannam, ma'oudou billah. Non. Est-ce que des gens pareils, on va dire d'eux qui sont intelligents ? Est-ce que l'intelligent va faire des choses de jeter au plus bas fond de l'enfer? Sûrement pas. Donc, ce ne sont pas des intelligents. Non. Taïb. Ça, c'est quoi? C'était A, la définition de l'hypocrisie. Et Allah Ta'ala dit aussi, « Fi qulubihim maradun, fazadahumullahu marada, wa lahum adhabun alimun bima kanu yukadhibun. » Al-Baqara 10. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie. Et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie. Et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Maintenant B. A, la définition de l'hypocrisie. B, les catégories de l'hypocrisie. Il y a deux sortes. L'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure. Vous vous rappelez, il y avait quoi? Le shirk, l'association majeure et l'association mineure. Ensuite, on a vu quoi? La mécréance majeure, la mécréance mineure. Aujourd'hui, quoi? L'hypocrisie majeure, l'hypocrisie mineure. Alhamdoulilah, de connaître ces choses, sinon la personne ne va pas s'en sortir. Elle aura beaucoup d'ambiguïté dans son din. Donc, il existe deux sortes d'hypocrisie. L'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure. La première, l'hypocrisie majeure, qui s'appelle An-Nifaq al-Akbar, qui est l'hypocrisie dans la croyance. النفاق الاعتقادي. Elle est de six sortes. On va voir l'hypocrisie majeure qu'on appelle نفاق. نفاق الأكبر. Majeur. C'est une hypocrisie dans la croyance. Pas dans les actes. Pas dans ce qu'on fait. Non. Dans ce qu'il y a dans le cœur. Dans la croyance. Ça a rapport avec l'aqid الاعتقاد. النفاق. L'hypocrisie الاعتقادي. الاعتقادي. L'hypocrisie de la croyance à l'intérieur de l'i'tiqad. Elle est de six sortes. On va voir la première sorte. Démentir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il dit n'est pas vrai. Et qu'il ment. Qu'il dit n'importe quoi. Que c'est faux ce qu'il dit. La science a prouvé que ce qu'il dit est faux. Comme ça disent certains, peut-être, astaghfirullah, musulmans. Ou alors, qui se croit musulman. Il dit, maintenant, ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai, c'était autrefois. Maintenant, la science et la technologie de pointe. Naam. Maintenant, ce qu'il a dit, beaucoup de choses ne sont pas vraies. Comme ça, il dit. Astaghfirullah. Celui qui dit comme ça, il devient kafir. Naam, on va voir tout à l'heure. Il a démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. pas dans toute chose, dans quelque chose. C'est pour ça que ça va venir, inshallah ta'ala, dans, je crois, la deuxième sorte. Wallahu alam. Voilà, la deuxième sorte. Démentir une partie de ce que le prophète alayhi sallam a rapporté. Différence entre celle-là, numéro 2, et la première, numéro 1. Dans la première, tu dis carrément le prophète sallam, c'est pas vrai tout ce qu'il dit. Non, il a inventé des choses, sa tête, et comme ça. Dans la deuxième, si le prophète sallam a été envoyé par Allah, et ce qu'il dit est vrai. Mais il y a des choses qui sont pas vraies. Il y a des choses, yani, il a menti en certaines choses, une ou deux. Une, ça suffit. Tu dis une seule, il a menti en une seule chose, la personne est sortie de l'islam. La personne est sortie de l'islam. La troisième, qui fait partie de quoi? De l'hypocrisie majeure. La haine contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Détester le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Détester aussi une chose, naam, qu'il a lui. Naam, qu'il a lui et par exemple à laquelle il a exhorté. Naam, par exemple lorsqu'il a dit, il a dit par exemple que le meilleur habit moi, il a dit c'est le qamis. Naam. Toi tu dis a'oudou billah, c'est quoi le qamis ça? A'oudou billah. Qamis. Si tu savais pas que le prophète a dit que le meilleur habit c'est le qamis, ma'alish, tu savais pas. Mais maintenant tu sais que c'est lui qui a dit cette phrase et tu dis moi, je déteste le Khamis. Je déteste le Khamis. Naam. Et tu as dans la tête que c'est le prophète qui a dit à l'essentiel que c'est le meilleur habit. Tu dis, c'est quoi le Khamis? A'oudou billah. A'oudou billah. Taïb. Quatrième sorte. Détester une partie de ce que le prophète a rapporté. C'est à cela que s'applique l'exemple que j'ai donné du Khamis, par exemple. Détester une partie de ce que le prophète a rapporté. Détester la barbe. Non, détester la barbe. J'ai dit la fois passée la différence entre détester la façon dont la personne a laissé pousser sa barbe et détester la barbe elle-même parce qu'elle vient du dîn du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une grande différence. Non, si quelqu'un par exemple laisse sa barbe qui va aller jusqu'au nombril et la laisser sale, et plein de, je ne sais pas, plein de miettes de pain, etc. Tu dis, c'est quoi cette barbe? Va te laver, subhanallah. Là, tu n'as pas détesté la barbe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu as détesté la façon dont cette personne traite sa barbe. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, a dit dans un hadith authentique, qui se trouve dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, rahimahullah, a dit, Man kana lahu sha'run falyukrimh. Comme ça, il a dit. Il a dit, quiconque laisse pousser ou bien des cheveux char. Il a dit Falyukrimhu. Falyukrimhu, yani qu'il est bien. Que ce soit yani, au niveau de la tête ou de la barbe. Non. C'est pas je laisse mes cheveux comme ça ébouriffés. Comme un hérisson. Ensuite, ne lave pas. Ne mets pas de shampoing. Ne mets pas de... Ensuite, il dit c'est ça l'islam. C'est pas ça l'islam. Non. C'est pas ça l'islam. C'est quatrièmement. Cinquièmement, éprouver de la joie lors de l'affaiblissement de l'islam. Naam. Éprouver de la joie lors de l'affaiblissement de l'islam. Il y a des gens qui sont comme ça, a'oudou billah. Il y a des gens, a'oudou billah, qui sont comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyah. Naam. Sixièmement, détester la victoire de l'islam. Si les musulmans non, font une bataille contre les kuffars, ils voudraient que ce soit les kuffars qui aient la victoire. Et si jamais sont les musulmans la victoire, il devient gêné. Non, il est chagriné. Peut-être même qu'il va pleurer. Il a le cœur gros. Non. Cheikh Rahimahullah, Hafidhullah a dit, en parlant d'eux, la première, l'hypocrisie dans la croyance, nifaq, nifaq al-i'tiqadi, avant de citer les six groupes, il a dit, il s'agit en effet de l'hypocrisie majeure, nifaq al-akbar. L'hypocrite appartenant à cette catégorie, montre son adhérence à l'islam, mais mécréance au fond de lui-même. Ce type d'hypocrisie fait sortir entièrement de l'islam. Et l'hypocrite est dans ce cas voué au plus bas-fond du feu de l'enfer. Allah Azzawajal a attribué à cette catégorie de gens tous les mauvais caractères, tels que la mécréance, l'absence de la foi, la moquerie de la religion, leur mépris et le penchant total vers l'alliance avec les ennemis de la religion pour partager avec eux l'islam. Ils sont d'ailleurs présents de tout temps. Les hypocrites sont présents de tout temps, notamment quand est-ce qu'ils sont présents, notamment lorsque l'islam est fort et qu'ils ne peuvent l'attaquer de façon directe. Alors ces personnes manifestent leur appartenance à l'islam pour comploter ensuite contre lui et ses adeptes en cachette et pouvoir vivre parmi les musulmans en préservant leur sang et leurs biens, comme ils ont fait exactement lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra vers Médine. Ils ont su que yani, l'islam était fort et que là ils ne peuvent plus l'attaquer comme à la Mecque. Alors ils ont dit, on va faire une ruse, on va montrer comme quoi on est musulman. C'est là-bas à Médine qu'a commencé le nifaq. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'hypocrisie à la Mecque. Il n'y avait pas à la Mecque. L'hypocrite montre sa croyance en Allah, en ses anges, ses livres, ses messagers et au jour du jugement dernier. Tandis qu'au fond de lui-même, il dément tout cela. En réalité, il ne croit pas en Allah Azzawajal, ni au fait qu'il a prononcé une parole révélée à un être humain dont il a fait un messager pour guider les gens vers le bon chemin par sa permission, les avertir de sa rigueur et les mettre en garde contre son châtiment. A dévoiler les manigances et les secrets des hypocrites dans le Saint-Coran et les a mis au grand jour aux yeux des croyants afin qu'ils soient prudents à leur égard. Allah Azzawajal a mentionné au début de la sourate de Al-Baqarah les trois catégories de gens, en l'occurrence les croyants, les mécréants et les hypocrites. Il a consacré quatre versets pour les croyants, deux versets pour les mécréants et 13 versets pour les hypocrites. 13. Non. Vu leur grand nombre, leur calamité pesante et leur grand danger pour l'islam. Pour les mécréants, seulement deux versets. Et pour les hypocrites, 13 versets. Pourquoi? Vu leur grand nombre, leur calamité pesante et leur grand danger pour l'islam. Car ce que l'islam endure de leur part est très dur. Du fait parmi ceux qui y appartiennent, ils sont comptés parmi les musulmans, et qui sont appelés à le défendre et à le soutenir alors qu'ils sont ses ennemis en réalité. Ils expriment leur animosité envers l'islam de diverses façons. De diverses façons que l'ignorant pense science et réforme, alors que c'est pure ignorance et corruption. Et corruption. Ça, c'était la première sorte de l'hypocrisie, yani, qu'on a appelé hypocrisie majeure, ou bien nifaq al-akbar, nifaq qui a rapport avec la croyance, i'tiqadi. Maintenant, la deuxième sorte, c'est l'hypocrisie mineure, nifaq al-asghar, qui est l'hypocrisie dans les actes, tout à l'heure, c'était l'hypocrisie majeure qui avait rapport avec quoi? Avec la croyance, avec ce qu'il y a dans le cœur. Maintenant, cette hypocrisie qui est mineure, elle a rapport pas avec ce qu'il y a dans le cœur, mais avec les actes, avec ce qu'on fait, avec ce qu'on fait. L'hypocrisie mineure consiste à faire un acte d'hypocrisie en ayant la foi dans le cœur. Ce genre d'hypocrisie ne fait pas sortir de la religion, mais c'est un moyen conduisant à cela. Ce genre d'hypocrite possède à la fois de la foi et de l'hypocrisie en lui-même. La première sorte, la grande hypocrisie, l'hypocrite qui fait la grande hypocrisie ou qui a la grande hypocrisie, ne possède pas la foi. Il possède seulement, yani, l'hypocrisie, la mécréance. mais il veut montrer, de par les actes, il veut créer le bien, alors que c'est faux. Mais celui-là, celui qui est hypocrite, d'une hypocrisie mineure, celui-là, il groupe entre deux choses. Entre la foi dans son cœur, la foi en Allah Azzawajal, en son messager, en ses livres, etc. Et de l'hypocrisie, yani, qui est dans les actes, qu'on va voir tout à l'heure. Mais si ce caractère prend le dessus, alors la personne deviendra un pur hypocrite. Conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, regardez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Arba'un man kunna fihi munafiqan khalisa, wa man kanat fihi khaslatun minhunna, kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yada'aha. Idha tumina khan, wa idha haddatha kad, wa idha ahada ghadar, wa idha khasama fajr. Rawahu al-Bukhari rahimahullah. Il a dit, alayhi sallam, quatre choses dont quiconque s'y caractérise, et celui qui n'en possède qu'une seule, aura certes une caractéristique de l'hypocrisie, jusqu'à ce qu'il la délaisse. Donc il y a quatre choses. Si une personne a les quatre choses en elle-même, c'est une pure hypocrite. Mais si elle possède seulement une ou deux ou trois, naam, on va dire d'elle, elle a des caractéristiques de l'hypocrisie, jusqu'à ce qu'elle délaisse bien ces deux choses ou ces trois choses. Naam. Il a dit. Un, il y a quatre choses. La première, si on lui confie un dépôt, il trahit. Si on lui confie un dépôt, il trahit. Je lui laisse disons, je lui laisse l'or que j'avais à la maison ou bien ma voiture. Car je vais en voyage. Et je lui dis, Yanni, attention, prends-en garde. Il me dit, il n'y a pas de problème. Quand je reviens, je lui dis, je suis la baisse prêt, alhamdoulilah, la baisse, tu es bien revenu de voyage, la baisse, alhamdoulilah, la baisse, je suis venu prendre la voiture. Il me dit, quelle voiture? C'est dans le garage. Je m'en rappelle pas, tu m'as pas laissé de voiture. Il n'y a pas de voiture. Ou bien, ah, la voiture. Hey, Shbek, tu as Alzheimer. Je l'ai rendu la semaine passée. Shbek, tu es malade. Je l'ai rendu la semaine passée, tu te souviens pas. Donc, ou bien il va dire, la voiture, ah la voiture, j'ai oublié de le dire, Allah, on me l'a volé. Ils sont venus là, hein, je sais pas si c'est cette phrase, les voyous, je sais pas qui, et ils ont tout pris. Entre autres, ils ont pris ta voiture. Si on lui confie un dépôt, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il trahit. Il trahit. C'est la première caractéristique des munafiqins, des hypocrites. Ensuite, parle, il ment. S'il parle, il a dit, innama yiftari al-kadhib alladhina la yu'minuna bi ayati Allah wa ulaykum al-kadhibun. Il a dit, et pour faire des mensonges ceux qui ne croient pas en Allah, comme ça il a dit dans le Coran. Et on a cité le verset tout à l'heure, si vous vous rappelez un peu plus haut, en parlant des hypocrites. Et ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Vous vous rappelez juste en haut, un peu plus en haut, un peu plus en haut, il a dit, et ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Walam adabun adim, alim, alim, bima kanu yakdhibun. Baqara. Naam. Ça, c'est la deuxième. La troisième caractéristique du munafiq, de l'hypocrite. S'il promet, il faillit. S'il promet, il faillit. Naam, il te donne un rendez-vous, il te fait une promesse, hein? Ensuite il faillit. Naam, il est possible que la personne faillisse. Mais, elle s'excuse. Elle dit, je savais pas. Quelque chose est venu comme ça, yani, à l'improviste. Je n'entendais pas. J'avais un rendez-vous important avec toi, mais mon fils est tombé malade. Je l'ai pris à l'hôpital. Naam, j'ai pas fait exprès. Mais j'essaie de m'excuser, de téléphoner, de dire à la personne, attention, je ne suis pas au rendez-vous, je ne viens pas aujourd'hui, je suis absent, voilà ce qu'il y a, le programme a changé, et comme ça. Naam. Ou alors, je montre quelles sont mes excuses. Je t'avais promis de te donner 100 euros à la fin du mois, mais voilà ce qui s'est passé, telle et telle chose, telle et telle chose. Car des fois, la personne sait que, au moment de promettre, elle sait qu'elle ne va pas tenir la promesse. Ça, c'est très grave. Donc, il sait qu'il est en train de mentir et qu'il est en train de promettre dans le vide. C'est comme si je te dis, viens la semaine prochaine, je te donne telle et telle chose, alors que dès maintenant, je sais que c'est pas vrai. Je sais que je ne vais pas te donner. Et que je n'ai même pas cette chose. Et que si tu viens, je ne vais pas te la donner. Donc, une des caractéristiques des munafiqoun, a'oudou billah. La quatrième, et s'il se dispute, grossit. Bukhari 34. Le musulman, le vrai, quand il se dispute, naam, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit que, yani ce qui ravit Allah subhanahu wa ta'ala. S'il se dispute, naam, il ne dit pas des choses qui sont haram. Il ne dit pas des gros mots. Il y en a même qui, lorsqu'ils se disputent, ils insultent même, astaghfirullah, la religion. D'autres insultent Allah. D'autres insultent l'islam. A'oudou billah. Naam. L'hypocrite, quand il se dispute, il est grossier. Un musulman se dispute. Lors de la dispute, il est grossier. Il a une des caractéristiques des quoi? Des hypocrites. Maintenant, s'il a les quatre cités ici, pour lui. Mais si l'on a trois, naam, ou deux ou une, naam, il a deux ou trois caractéristiques des hypocrites qu'il doit délaisser, qu'il doit faire des efforts pour délaisser, bi'idhnillahi ta'ala. Regardez ce qu'a dit Allah ta'ala dans ce verset. Inna alladhina taqaw, idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru, fa idha hum mubsirun. 7, 201. Ceux qui pratiquent la piété, ceux qui sont pieux, lorsqu'une suggestion du diable, du shaitan les touche, c'est-à-dire les savants disent, ils s'énervent. Lorsqu'ils s'énervent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disputent à fond. Ils sont grossis? Il a dit non. Ils se rappellent du châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Et les voilà sur le vrai chemin, minhaj, sur le Coran et la Sunna. Non. C'est qui ceux-là qui pratiquent la piété, les pieux? Lorsque le shaitan vient les mettre en colère, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rappellent du châtiment d'Allah Azzawajal et les voilà, mashallah, sur le vrai, sur le chemin. Ils disent, A'udhu billah min shaitan rajim. A'udhu billah. J'allais dire mot. Alhamdoulilah que je me suis retenu. Allah Ta'ala m'a aidé, m'a ouvert ma poitrine. J'ai chassé le shaitan et au lieu de dire un gros mot, j'ai dit, A'udhu billah min shaitan rajim. Voilà, alhamdoulilah. J'ai vaincu le shaitan. Me voilà clairvoyant. Naam, je me suis rappelé le châtiment d'Allah. Que si j'allais dire un gros mot, j'allais avoir une caractéristique des hypocrites, a'oudou billah. Alhamdoulillah. Allah Ta'ala dit aussi dans le Coran, il a dit, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ. 42, 37. Allah Ta'ala est en train de faire les éloges à certaines personnes. Ce qu'il a dit d'eux, ce qu'il a dit d'elles, de ces personnes. Il a dit, et ceux qui évitent de commettre les péchés les plus graves, les péchés, ainsi que les tirs, comme la zina, etc. Et qui pardonnent après s'être mis en colère. Subhanallah al-Adhim. Et qui pardonnent après s'être mis en colère. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils se mettent en colère, elles ont ce qu'on appelle l'orgueil. Et voudraient, yani, se défendre nan, à fond. Jamais il te dit je ne pardonne. Jamais. Moi, jamais je pardonne. Tu ne me connais pas bien. Hein, les gens ne me connaissent pas, moi. Moi, jamais je pardonne. Non, mais crois qu'en faisant comme ça, crois que c'est une qualité. Alors que Allah Ta'ala a dit, en faisant les éloges, il a dit, ce sont ceux qui pardonnent après s'être mis en colère. Pardonne. Le mari pardonne à son épouse. L'épouse pardonne à son mari. Pardonne à ses enfants. Non. Les enfants pardonnent à leur père ce qu'il a fait. Il leur a pas, il dépensait pas pour eux, etc. Maalesh, Allah ismahlek. Allah, subhanallah al-azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique. Il se trouve dans les livres de Cheikh Al-Albani, entre autres, il a dit que toute personne qui, lorsqu'elle est en colère, si elle veut appliquer, elle peut appliquer. C'est-à-dire, par exemple, frapper quelqu'un ou bien à déposer plainte contre bien Mohim. Elle peut yani, appliquer nam, yani, se détendre dans sa colère. Il a dit, mais retient ça dans son cœur. Il a dit. Entre parenthèses, elle peut faire quelque chose. C'est pas elle peut pas. Non, elle peut faire, mais il a dit. Il a dit, mais laisse dans son cœur cette colère. Que va lui faire Allah Ta'ala yawm al-qiyamah? Il a dit, Allah Ta'ala va appeler cette personne au milieu de tous les gens qui écoutent et va lui faire choisir parmi les houris celle qu'il veut. Si c'est un homme, si c'est une femme, peut-être contraire. Il va lui faire choisir un homme parmi tous les hommes qu'il y a ou bien autre chose à la place de l'homme. Allahu alam. Mais il a dit comme ça, il a dit toute personne qui, lorsqu'elle est en colère, peut y faire, y disons, se venger. Tient dans son cœur, retient dans son cœur, il dit Yom Qiyam, il va l'appeler au milieu de tous les gens pour lui faire choisir parmi les houris qui il veut. Qui il veut. Je reviens un peu plus haut. Quand on a parlé de. Des caractéristiques, les quatre de l'hypocrite, on a dit, entre autres, on a dit, celle-là, Nam, si on lui confie un dépôt, il trahit. Donc le vrai musulman, on lui confie un dépôt, il ne trahit pas. Il ne trahit pas. Et il tient aussi sa promesse. Rappelez un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit sahih, a dit de ce hadith qu'il était sahih. Et je crois qu'il se trouve même dans Muslim, si j'ai une bonne mémoire. Muhim, le hadith est authentique. Qu'une fois une personne a demandé à une autre personne, le prophète Hassam a dit quelqu'un des enfants d'Israël. C'est-à-dire avant lui, au temps de Moussa par exemple, le Issa ou là. Quelqu'un a demandé à un autre de lui prêter de l'argent. Il lui a dit, j'ai besoin de 1000 dinars. Le dinar, vous savez, il est en or, il était en or autrefois. L'autre lui a dit, ramène des témoins. L'autre lui a répondu, Allah est témoin. Pas d'autre témoin, Allah est témoin. Alors l'autre lui a dit, alors ramène un kafil. Kafil. Il lui a dit, Allah Ta'ala est kafil. Kafil, c'est quelqu'un qui te représente. Si jamais tu es absent, tu ramènes pas l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui va te garantir. Le garantir, celui qui va garantir, on dit de lui en arabe, Ad-Damin. Ad-Damin, Yadmin. Celui-là, non, c'est kafil. Yakful. Yakful, pas Yadmin. Si quelqu'un va dire, c'est quoi la différence entre celui qui. Il garantit et celui qui est kefil. Kefil, comme par exemple si vous allez vivre en Arabie Saoudite, on ne va pas vous donner de Iqama, on vous demande c'est qui votre kefil. Au Kuwait aussi, c'est qui votre kefil. Tu dois ramener un Kuwaitien qui signe à ta place comme quoi cette personne, yani c'est moi qui m'en charge s'il se passe quelque chose. Exactement, s'il se passe quelque chose avec l'État, on va appeler ton kefil. On va lui dire, voilà, il nous a un problème cette personne qui t'a amené. Sur laquelle tu as signé le mohim. Cette personne a dit, non, je disais, il lui a demandé un kefil. La différence entre le et le dhamin, celui qui te garantit, non, la différence c'est, un dhamin garantit la chose, par exemple ton argent. Non. Si je mets quelqu'un garant à ma place, si jamais je ne paye pas, on appelle le gars, on lui dit, viens payer à la place de celui-là. Alors que le kefil, il garantit ta personne, pas ton argent. Il garantit ta personne. Naam. C'est-à-dire, si tu es absent ou là, on lui dit, va ramener la personne. Va ramener, on ne te demande pas de ramener son argent. Va ramener la personne elle-même. Si tu garantis la personne, tu t'appelles kefil. Si tu garantis, il y a des choses. En cette personne, l'argent ou là, on t'appelle Dhamin. El-Muhim. Il lui a dit, tu veux que je te prête 1000 dinars? Ramène deux témoins. Il a dit, c'est là le témoin. Il lui a dit, alors ramène Kefil. Si jamais tu es absent, c'est lui qui vient à ta place. Il a dit, Allah Ta'ala, c'est lui le kafil. Il a dit, d'accord. Il lui a prêté 1000 dinars en or, sachant que 1 dinar, c'est 12 dirhams, c'est-à-dire 5 grammes d'or. Alors on va multiplier 1000 par 5. Ça donne combien? Ça donne 5000. Il lui a prêté 5000 grammes d'or. Il lui a prêté 5 kilos d'or. 5 kilos d'or. Imagine quelqu'un, tu lui dis maintenant, prête-moi 5 kilos d'or. 5 kilos d'or. Il lui a donné 1000 dinars d'or. Il est parti. Il a pris une barque. Il est parti vers son pays. Ils se sont mis d'accord que, par exemple, une date limitée, supposons une année. D'une année, tu me rends mes 1000 dinars d'or. Pour que vous voyez quelqu'un, yani, qu'est-ce que ça veut dire donner quelque chose en dépôt et qu'est-ce que ça veut dire tenir promesse. Ça a un rapport avec les deux. Une année passée, l'autre, lui qui était dans l'autre pays, qui avait emprunté de l'argent, prend les 1000 dinars et va au bord de la mer, attendre qu'une barque passe. Car maintenant, c'est le moment du rendez-vous. Une année est passée. Avec 1000 dinars à main, 1000 dinars en or, dans un sac où je ne sais où. Aucune barque ne passe. Autre, c'est pas comme aujourd'hui, vous savez. Aujourd'hui, tu prends un billet dans un bateau ou un avion et tu vas où tu veux. Autrefois, non. C'est pas toi qui commandes. Tu vas au bord de la mer et tu attends. Peut-être un jour, peut-être un mois pour qu'une barque passe. Une fois, deux fois, trois fois. Là, il va tout le temps les matins, comme ça, il reste jusqu'au soir devant au bord de la mer. Il n'y a aucune barque qui passe. Comme alors que j'avais promis que la MNH devait la rendre une année, par exemple, plus tard. Et c'est maintenant le moment de rendre la MNH. Et l'autre, celui, le créancier, celui qui lui avait prêté de l'argent. Aussi, sortait à chaque fois, yani au bord de la mer, dans son pays, et peut-être que à laquelle j'ai prêté de l'argent viendra aujourd'hui. Il attend une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il n'y a rien. Alors l'autre qui avait les 1000 dinars qu'il devait rendre, a pris quoi? A pris un tronc d'arbre, l'a troué, mis un trou dans le tronc d'arbre. Il a placé les 1000 dinars en or. Ensuite, a vitré le trou qu'il a creusé dans le tronc. Il lui a mis de la glace au jour peut-être du peut-être même le hadith a dit Zajjaja. Zajjaja, c'est Zujaj. Zujaj, c'est vitre. Il a mis quelque chose. Pour résumer, il a fait de sorte que le trou soit imperméable et a jeté le tronc en mer. Avant de le jeter, il a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, Allah azza wa jal, tu sais très bien qu'un jour, j'ai demandé à quelqu'un 1000 dinars compris. Il m'a dit, rapporte des témoins. Je lui ai dit, Allah est témoin. Il m'a dit, rapporte un kafil. Je lui ai dit, Allah est témoin et kafil. Aujourd'hui, c'est le moment de rendre mes dettes et aucune barque n'a passé ni ne passe depuis une semaine ou je ne sais combien de temps. Ya Allah Ta'ala. Salam alaykoum, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Alhamdoulilah. Une seconde, je cherche où on était. Non. Ibn al-Jazairi. Mohamed Jazairi a voulu, a pensé faire du bien en mettant le hadith pour que je lise en même temps. Mais quand vous écrivez quelque chose, ça m'enlève. Non, ça. Donc, Inch'Allah ta'ala, il faut essayer au maximum de ne pas écrire quand je parle. Barakallahu fikoum. Et Jazakallahu khairan pour la bonne niya, pour la bonne intention. Qui entre parenthèses a fait un dégât. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ya Allah, Ya Allah. Donc, vous saviez que Il m'a demandé des témoins. J'ai dit, tu es témoin. Il m'a demandé un kéfil. J'ai dit, tu es kéfil. Alors, il n'y a pas de barque, il n'y a rien. Alors, je vais jeter cette chose dans la mer. Et yani, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de la faire arriver à bon port. Il a jeté le tronc dans la mer. Et le tronc a commencé à, yani, à voguer comme ça. Les vagues qui le frappent à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et, subhanallah, l'autre là-bas, le créancier dans son pays est sorti. Il a dit, ça fait maintenant 4 ou 5 jours que je sors, il n'y a rien. Et je vais sortir aujourd'hui aussi pour voir. Peut-être il va venir, peut-être cette personne va venir. C'est une personne qui tient les promesses. Donc, il est sorti. Il n'y a rien. Il voit, il n'y a rien. Non, la personne n'arrive pas. Il a dit, bon, alors je rentre à la maison. Il n'y a pas. Mais il a remarqué qu'il y avait un tronc. Un tronc qui flottait. Il a dit, alors pour que ça ne soit pas une peine perdue, je vais prendre avec moi ce tronc pour. Yanné, allumer le feu à la maison. Autrefois, ils employaient le bois. Il est parti à la maison, il a pris une hache, il a cassé, il voulait casser le tronc pour allumer le feu. Et voilà qu'il trouve, yanné, qu'il y a un petit sachet à l'intérieur, ou une petite bouteille, ou quelque chose comme ça. Un sachet comme ça. Il ouvre et il trouve 1000 dinars en or. 1000 dinars en or. Allahu Akbar, c'est quoi ça? 1000 dinars en or. El-Mohim. Il a allumé son bois et a caché les 1000 dinars. Et quelques jours après, ou là, un mois après, ou là, la personne arrive. La personne qui a envoyé son argent par l'intermédiaire du tronc. Arrive, salam alaikum, salam rahmatullah. Comment ça va? La baisse, alhamdoulilah, prière, voilà. Voilà. Je voulais t'emmener ton argent depuis 10 ou 15 jours. Allah, j'ai pas trouvé un moyen de transport. Mais voilà, l'argent maintenant est là devant moi. Yani, je suis venu te le donner. L'autre a dit quoi? Jazakallahu khairan. Mais j'ai reçu ton argent dans le tronc. Naam, le tronc est arrivé. J'ai reçu l'argent. Jazakallahu khairan. Yani, pour me les avoir envoyés, ils sont arrivés à bon port. Alors l'autre lui a dit Jazakallahu khairan, il est parti avec les 1000 dinars dans sa poche. Et moi, ce que je veux dire. Premièrement, très important, il a mis Allah Ta'ala comme témoin et comme kafil. Allah Ta'ala. Le hadith a dit Ihfadillah yahfadka. Préserve. Yani Allah Ta'ala te préserve. Préserve Allah, ça veut dire sa sharia, etc. Quand quelqu'un donc vient à Allah, Allah Ta'ala lui fait toujours une solution. Premièrement. Deuxièmement, regardez la grande confiance de cette personne. La confiance en Allah. Tu peux, toi, mettre yani, 10 000 euros ou 100 kilos d'or. Tu peux mettre 5 kilos d'or dans un tronc, les jeter à la mer et de demander à Allah Ta'ala de les faire arriver à bon port. Si ce n'est que tu es sûr qu'ils vont arriver bi'idhnillah Ta'ala à bon port. Et pour être sûr qu'ils vont arriver, toi tu as, toi ou là, quand je dis toi, ça veut dire moi aussi, bien sûr. Moi j'ai cette confiance en Allah Azzawajal de jeter seulement 10 euros dans la mer et de dire voilà, c'est pour Fawzi. Fawzi m'a prêté une fois 10 euros, comme c'est un avare, il veut que je les rende, donc je vais les envoyer comme ça dans un tronc. J'ai cette confiance en Allah Azzawajal. Vous riez. J'ai cette confiance en Allah Ta'ala de les envoyer dans un tronc comme ça. C'est pas possible. Ensuite, regardez la puissance d'Allah Azzawajal. Que c'est lui qui libère. C'est lui, Naam. L'autre, il a jeté le tronc. Le tronc, Allah Ta'ala lui donne quoi? Lui donne l'ordre et il donne l'ordre à la mer, aux vagues, Naam, de guider ce tronc jusqu'à ce qu'il aille. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, de Paris. Il doit aller jusqu'à je ne sais où, peut-être en Australie. Il donne l'ordre à la mer et aux vagues, et au vent aussi, au vent, de le guider vers la bonne direction, qu'il n'aille ni à droite ni à gauche, qu'il aille directement jusqu'à arriver là-bas, en Australie, à telle et telle plage. Allahu Akbar, la puissance d'Allah subhanahu azzawajal, Ensuite, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle. La mère de Moussa, alayhi salam, de Moussa, quand Pharaon, yani, a décidé de prendre tous les garçons qui étaient nés, là, ce jour-là, subhanallah, ou ce mois-là, ou cette année-là, là, normalement, qu'est-ce qu'elle fait? Maintenant, elle veut cacher Moussa pour que Pharaon ne le prenne pas. Normalement, une femme, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Une mère. Elle aurait, si elle voulait le cacher, elle aurait creusé. Creuser un petit tombeau, une tombe, et le mettre à l'intérieur, au plus profond, ensuite le cacher de draps, etc. C'est comme ça que je cache mon fils pour que Pharaon ne le prenne pas. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu as peur que le Pharaon te le prenne, jette-le dans la mer. Allahu Akbar. Jette-le dans la mer. La mer appartient à qui? Elle m'appartient à moi. Non, rien ne peut lui arriver. Aucun poisson, ni requin, ni baleine, ni dauphin, ni ne peut le toucher. Rien. Jette-le dans la mer. La mer m'appartient. C'est moi qui commande. Je donnerai des ordres au vent, à la mer, aux vagues, pour que personne ne touche cet enfant et qu'il aille, non, sous ma préservation. C'est moi le Hafid qui l'aille pour que les autres là-bas, yani, le prennent, c'est-à-dire la famille du pharaon et ses valets, etc. Subhanallah al-Azim, qu'est-ce qu'il commande? Ensuite, autre chose, ça me rappelle aussi une chose maintenant. Ça me rappelle la piété de ces deux personnes. La piété de ces deux personnes, comment, lorsqu'ils étaient les deux pieux et sincères avec Allah, comment Allah Ta'ala leur a fait une solution. L'autre, il lui a yani, envoyé son argent, il est arrivé. Et l'autre, alhamdoullah, a reçu son argent. Allah Ta'ala lui a fait arriver son argent, et il a reçu son argent. Non, il a dit peut-être qu'ils ne sont pas arrivés. Allahu alam. Ce n'est pas une preuve suffisante, si je vais lui dire cela. Donc il a pris 1000 euros et il est parti. Et lui a dit, voilà les mille dinars afouan que je t'ai ramené. Et ce qui prouve aussi que l'autre aussi était un pieux. Quelqu'un qui avait peur, Naam. Quelqu'un qui a peur d'Allah Ta'ala. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, les 1000 dinars, je les ai reçus. Naam. Tu peux garder ces 1000-là, tu peux les garder chez toi. Il aurait pu dire quoi? Il aurait pu dire, qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as envoyé 1000 euros, 1000 dinars par intrant. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu es fou, toi? Tu es fou? Qui t'a dit de m'envoyer l'argent par le tronc? Tu es fou, il y a quelqu'un qui fait ça, il y a quelqu'un qui a fait ça avant toi? Mais toi, je vais maintenant téléphoner à l'ambulance. Non, je vais téléphoner à l'ambulance. Elle va te prendre dans un centre ou un hôpital. Tu es fou, tu envoies 5 kilos d'or dans un tronc. Tu es fou. Bien sûr que je ne les ai pas reçus, bien sûr. Bien sûr, c'est impossible que quelqu'un les reçoive. Allez, donne-moi maintenant 1000 dinars. Donne-moi 1000. Je n'ai rien reçu. Non. Et qui va le croire? Qui va te croire quand tu vas dire que tu as envoyé 1000 dinars par un tronc? Mais l'autre a dit non. Allah Ta'ala sait et m'a vu quand j'ai pris le tronc et j'ai trouvé 1000 dinars. Donc, je t'apprends que je les ai trouvés. Dans le tronc, c'est pas la peine de me donner 1000 dinars. Allah Ibarak. Allah Ibarak. Taqwa. Ceux qui craignent Allah Ta'ala. Naam. Dans le cachet et dans l'apparent. Allahu Akbar. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous donner un peu, je dis un peu, 1 gramme de la piété des salaf. 1 gramme de la piété des salaf. 1 gramme, 1 gramme. Pas 1 kilo, 1 gramme, 1 gramme, c'est tout. Non. Il a dit ici, donc, il a dit, donc, celui qui rassemble ces 4 caractères, c'est-à-dire, si on lui confie un dépôt, non, il trahit. S'il parle, il ment. S'il promet, il faillit. Et s'il se dispute, il est grossier. Celui-là, dit Cheikh Fawzan, rassemble tout le mal et réunit toutes les caractéristiques des hypocrites. Et celui qui en possède une seule caractéristique, il a en lui un caractère des hypocrites. Il se peut en effet que le serviteur rassemble des bons et des mauvais caractères, ainsi que certaines caractéristiques de la foi et certaines caractéristiques de la mécréance et de l'hypocrisie. Ce dernier méritera à ce moment-là la récompense et le châtiment selon ce qu'il a fait. Il mérite les deux, la récompense et le châtiment. Quand par exemple le fait de négliger la prière en groupe dans la mosquée pour un homme, puisque c'est l'une des caractéristiques des hypocrites. Non, les hypocrites, non, ne vont à la mosquée que, par exemple, Salat al-Dhuhr et peut-être le Maghrib. L'Asr, c'est difficile, et l'Isha, c'est difficile, et Sobh, surtout Sobh. Ils n'y vont jamais. Pourquoi? Ils s'endorment. Non, c'est difficile. Et ils disent, Yahoya, moi je vais pendant Salat al-Dhuhr et l'Asr ou le Maghrib, ça me suffit. Les gens m'ont vu que j'étais là-bas, ça me suffit. Il n'y va pas pour Allah Azzawajal. L'hypocrisie, dit Cheikh Hafidhahullah, constitue un mal et un grave danger dans lequel les compagnons craignaient de tomber, radiallahu ta'ala. Ibn Abi Mulaika, radiallahu ta'ala, a dit, j'ai rencontré 30 des compagnons du prophète, alayhi salam, et tous avaient peur d'être atteints par l'hypocrisie. J'ai rencontré 30 compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tous avaient peur de quoi? D'être atteints par l'hypocrisie. Maintenant, les différences entre l'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure. Comme on a vu ça aussi par rapport à yani, l'association et par rapport à la différence. Donc, les principales différences entre l'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure, bi'idhnillahi ta'ala. Premièrement, elles sont de quatre. La première, l'hypocrisie majeure fait sortir de l'islam, tandis que l'hypocrisie mineure ne le fait pas, alhamdoulillah. Alhamdoulillah. L'hypocrisie majeure fait sortir de l'islam. Pourquoi? Car à la base déjà, tu n'es pas musulman. Car tu ne crois pas en Allah au jour dernier, en ses livres, en ses anges, etc. Tu feins, feindre. Tu fais semblant que comme quoi tu crois. Tandis que l'hypocrisie mineure, le fait de ne pas y aller tout le temps à la mosquée pour un homme, le fait de mentir, ne pas respecter les promesses, tout ça, naam, ça ne fait pas sortir de l'islam, bi'idhnillah ta'ala. C'est la première différence. La deuxième, dans l'hypocrisie majeure, il y a contradiction entre l'apparent et le caché dans la croyance. Car tu montres l'islam alors que tu ne crois pas en l'islam. Alors que dans l'hypocrisie mineure, la contradiction se trouve entre quoi? Se trouve dans les actes, c'est tout. Et non dans la croyance. C'est dans les actes. Quand tu parles, tu mens. Tu donnes des promesses, tu ne les tiens pas. Tout ça, c'est seulement les actes. Mais alhamdoulillah, dans le cœur, il y a quoi? Il y a la croyance, alhamdoulillah. La troisième différence. L'hypocrisie majeure ne peut survenir d'un croyant. Alors que l'hypocrisie mineure, l'hypocrisie majeure ne peut survenir d'un croyant. Jamais un croyant ne peut avoir l'hypocrisie majeure. Tandis que l'hypocrisie mineure, bien sûr, elle vient du croyant. Naam. Et la quatrième, je crois que c'est la dernière, Allahu alam. Souvent, celui qui est atteint par l'hypocrisie majeure ne se repent pas. On a dit souvent, car ça peut arriver. Mais c'est rare. Tandis que celui qui est atteint par l'hypocrisie mineure se repent dans beaucoup de cas. Se repent dans beaucoup de cas. Car c'est un musulman et c'est un croyant, alhamdoulillah. Naam. Tayyib, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Cheikh dit, Hafidhahullah, il a dit, souvent, celui qui est atteint par l'hypocrisie majeure ne se repent pas. Et même s'il se repent, il y a une divergence juridique à propos de l'acceptation de son repentir auprès du gouverneur. En ce qui concerne l'hypocrisie mineure, il se peut que la personne en question se repente et qu'Allah Azzawajal accepte son repentir. Cheikh Islam Taymiyyah rahimahullah a dit, il arrive souvent que le croyant soit confronté à une des branches de l'hypocrisie. Puis Allah Azzawajal lui accorde de repentir. De même, il peut survenir à son cœur ce qui cause l'hypocrisie. Cependant, Allah l'écarte de lui. En effet, le croyant est éprouvé par les insufflations de Satan et de la mécréance qui l'étouffent et le rendent mal à l'aise. Ainsi, les compagnons dirent une fois au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui ont dit, Ya Rasulallah, inna ahadana yajidu fi nafsihi ma لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. Il a dit, عليه الصلاة والسلام, ذلك صريح الإيمان. Voir le c'est un hadith authentique, voir تحقيق كتاب الإيمان de Ibn Taymiyyah, جزء واحد صفحة 102. طيب. Certains sahaba ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, ô messager d'Allah, en vérité, l'un de nous ressent lui-même des choses qu'il est plutôt préférable qu'il tombe du ciel plutôt que de les dire. Il leur a dit, alayhi wa sallam, telle est la véritable foi. Au contraire, hein, vous ressentez des choses dans vos cœurs que vous préférez que vous tombiez du ciel plutôt que vous ressentez. Ils ont dit oui. Il a dit ça, c'est la véritable foi. Quand quelqu'un a la véritable foi, c'est comme ça que ça lui arrive. Il va ressentir des choses dans son cœur horribles. Ce qu'on appelle des waswas. Naam. Le shaitan va lui dire que des choses, Allah Ta'ala et ceci, cela et ce. Un mohim. C'est ça la vraie foi. Naam. Si tu n'avais pas la véritable foi, juif, le shaitan ne va jamais leur faire quoi? Des insufflations. Il va dire, ceux-là, ils sont dans ma poche. Ils sont voués à rentrer à Jahannam. Je les laisse tranquilles. Moi, je veux faire des problèmes aux musulmans. Je veux faire des problèmes aux croyants, les vrais, les pieux. Ceux-là, je veux leur faire les problèmes. Et leur faire sentir des choses dans leur cœur graves. Des choses grossières, des choses comme ça. Naam. Donc, alhamdoulilah. Regardez la beauté de l'islam. Tu ressens des choses horribles dans ton cœur. Je te dis, c'est ça la vraie foi. Au lieu de te dire, tu es kafir. Akhlas, tu es sorti de l'islam. Quoi? Tu sens dans ton cœur que Allah Ta'ala, yani, n'existe pas ou là, ou bien ceci, cela. Tu es sorti de l'islam. Non, au contraire, c'est ça la foi. Tu as la véritable foi. Le shaitan a quelqu'un de mashallah. Il veut quoi? Il veut tout te faire démolir. Il veut tout te faire démolir. Et pour qu'il démolisse, c'est qu'il a trouvé quelque chose qui a été bâti. Il a trouvé, yani, que tu as la foi dans ton cœur. Il veut démolir. Naam. Et dans un autre hadith qui ressemble à celui-là, il a dit, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ لَأَنْ يَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, il a dit, radda kaydahu ila alwaswasa. Dans un autre hadith authentique, un homme s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ya Rasulallah, l'un de nous ressent lui-même des choses au point qu'il préfère être un charbon brûlé plutôt que de dire ce qu'il ressent dans le cœur. Il a dit, alayhi wa sallam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, louange à Allah Azza wa Jal, qui a tourné la machination du shaitan en un simple chuchotement. Sahih Abi Daoud de Sheikh Al-Albani. Allahu Akbar, louange à Allah Ta'ala, alhamdulillah. Qui a quoi? Qui a tourné la machination du shaitan en un simple waswas. C'est des waswas, des chuchotements. Tu as des chuchotements dans ton cœur. Allahu Akbar, alhamdulillah. Tu es alhamdulillah, tu as vaincu le shaitan. Il n'a rien pu faire. Il fait seulement des chuchotements qui pour Allah Ta'ala ne comptent pas. Et pour lesquels Allah Azza wa Jal ne châtie pas. Alhamdulillah, Allahu Akbar. On a vaincu le shaitan. Alhamdulillah. Imaginez que le shaitan pouvait rentrer dans ton cœur et renverser ton cœur. Du coup, tu n'es plus croyant. Tu deviens mécréant ou hypocrite. Imagine cela. C'est pour ça que le prophète sallam a dit Allahu Akbar trois fois. Celui qui l'a dit, Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, que le shaitan ne peut rien faire. Le maximum, qu'est-ce qu'il peut faire? Des waswas. Dans ton cœur, attention, ceci, cela, ta salat n'est pas acceptée, tu es devenu mécréant, tu es devenu kafir, il parle dans le vide. Toi, tu te retournes, tu craches trois fois sur ton côté gauche de l'épaule, Aoudoublam shaitan rajim, c'est parti, khlas. Allah Ta'ala et les anges n'ont rien marqué contre toi. Alhamdulillah, Allahu Akbar trois fois. Allahu Akbar trois fois. Il a dit, c'est-à-dire que ces suggestions, en présence de cette appréhension, manifestent en les repoussant du cœur est une preuve de la voie véritable, de la foi véritable. Naam. Déjà la preuve que cette personne soit allée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, Ya Rasulallah, je ressens dans mon cœur des choses horribles. C'est déjà une preuve de la foi. Si tu étais mécréant mon affaire, qu'est-ce que tu aurais dit? Tu aurais dit, pourquoi je vais me plaindre? Non, moi je suis comme ça. Ouais, c'est vrai ce que je ressens. J'aime ça, j'aime ce que je ressens. Je suis comme ça. Mais là, non, tu n'as pas accepté. Et tu es allé te plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que le pieux qui a le courage et la foi de faire cela. L'hypocrite, il va rester dans sa chambre. Il va dire, non, je ne vais pas me plaindre. Non, je suis comme ça. Mais le fait déjà d'aller te plaindre, c'est une preuve. Tu es un croyant, tu n'as pas accepté cela. Tu es en train de chercher une solution. Non, ya Rasulallah, dites-moi, c'est quoi la solution? Il y a dans mon cœur des choses horribles. La solution, c'est rien ça. C'est seulement des là. Quant aux personnes atteintes par l'hypocrisie majeure, Allah Ta'ala a dit à leur sujet, il a dit, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Al-Baqara 18. Sourds, muets, non, ils sont sourds, ils sont muets, ils sont aveugles. Ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. Ils ne peuvent pas revenir, non. Ils sont sourds. C'est-à-dire, comment ils sont sourds? Oh, subhanallah, tu mets de la musique, il entend. Ça, il entend la musique, mais il n'entend pas le haqq. Quand tu lui dis, Allah Ta'ala a dit, ou son prophète, l'islam a dit, la sharia a dit, il n'entend pas. Non, il n'entend pas. Si ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Muet. Comment il est muet? Moi, je l'entends parler. Il sait chanter. Voilà, il sait chanter. Mais il sait pas dire un verset, réciter un verset. Il sait pas. Ou alors dire un hadith. Il le dit pas. Il est muet en ce sens. Hein? À quoi ça sert qu'il dise seulement des chansons? Il dise des choses qui sont pas bien. Pourquoi il peut pas dire un verset ou un hadith? Ou ce qu'ont dit les savants? Donc, pour l'islam, c'est aveugle, naam. Il ne voit que comme voit une bête. Il voit seulement les choses qu'il va manger, naam, ou les choses qui lui font plaisir lorsqu'il les voit. Et il voit des films qui sont haram. Et il voit les femmes nues. Voilà ce qu'il voit. Il vit pour cela. Donc, celui-là, c'est un aveugle pour Allah Azzawajal. Je ne vais pas dire n'a pas vu le Coran. Tu n'as pas vu le Coran. Maalesh, on va t'excuser. Peut-être que tu es un kafir, maalesh. Mais pourquoi tu n'as pas vu avec tes yeux cet univers et son immensité? Pourquoi tu n'as pas médité sur le ciel? Pourquoi il ne tombe pas alors qu'il n'a pas de rempart? Pourquoi tu n'as pas médité sur ce soleil qui est accroché comme un ballon, accroché comme ça dans l'univers? Sans avoir de cordes qui le retiennent par le haut, ni posé sur un rempart. Naam, il est comme ça, en train de tourner dans le vide, et il tombe pas. Et il meurt à fond et il pèse des milliards de tonnes. Comment se fait-il qu'il ne tombe pas? Pourquoi moi, si je vais monter en avion et je vais jeter un ballon, il va tomber? Pourquoi le soleil ne tombe pas? Alors qui, naam. Et des choses pareilles. Pourquoi tu médites pas sur cette mer, ces montagnes, ces plantes, ces fleurs, des milliers de couleurs de fleurs diverses. On a des coquelicots, beauté des coquelicots, subhanallah, les roses de toutes sortes, des roses jaunes. Je sais pas si on dit des roses jaunes, des fleurs jaunes. L'autre elles sont roses, l'autre elles sont blanches, l'autre elles sont subhanallah. Les fruits. La nature a donné tous ces fruits, de toutes ces couleurs et de tous ces goûts. Naam, la banane, quelqu'un quand il mange la banane, mashallah, le goût qu'elle a. Ensuite, la poire, subhanallah, la pomme, c'est autre. Les fraises, Allah Akbar, les fraises. La mangue, Allah Akbar. Les ananas, mashallah, le goût des ananas. Tout ça, c'est venu de lui-même. Hein? C'est de lui-même comme ça. Un jour, les ananas sont venus avec un goût, ce goût comme ça, mashallah. Et les bananes sont venues d'elles seules. Et je parle de 5 ou 6 fruits. Combien qu'il y a de fruits? Des centaines. Tout ça t'a pas poussé à dire, il y a quelqu'un qui a créé ça? comment c'est venu tout seul comme ça? Tous ces fruits, tous ces oiseaux, toutes ces beautés dans la nature, cette beauté, c'est venu d'elle-même. C'est pas possible, il faut être un fou. Il faut être un fou pour dire ça. Quelqu'un qui est aql, quelqu'un qui raisonne, ne peut dire cela. Impossible. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans beaucoup de versets, ne raisonnent-ils pas? N'ont-ils pas de raison? N'ont-ils pas de cervelle? N'ont-ils pas de cœur? N'ont-ils pas de mort? Ceux-là, ce sont des fous ou quoi? C'est impossible, c'est impossible. Non. C'est pour ça une fois, Abu Hanifa, il y a des gens qui sont venus pour faire avec lui un débat. Comme quoi, yani, la nature d'elle-même, c'est elle qui a fait ça. Non, c'est elle qui a fait ça. Non. Il a dit avant de commencer, laissez-moi parce que je suis en train de penser à un grave problème. Ils ont dit, dis, c'est quoi le problème, peut-être en t'aide. Il a dit, non, vous ne pouvez pas m'aider parce que il y a un bateau qui vient d'arriver. Et ce bateau est parti tout seul du port vers un autre pays. Sans ce qu'on appelle ni capitaine, ni chauffeur, ni rien. Tout seul. Il est parti vers un autre pays. Tout seul. Il s'est rempli de marchandises. Il est revenu. Maintenant, il est au port. Il est en train de faire descendre la marchandise tout seul. Ils ont dit, allez, arrête, arrête, arrête. Arrête, un bateau qui fait ça tout seul. C'est pas possible. Yani, comment qu'il vogue? Il vogue dans la mer. Comment qu'il connaît la direction? S'il n'y a pas quelqu'un qui le guide, ensuite, tous sont les gens qui, les dockers qui doivent l'aider pour faire descendre la marchandise et la mettre dans le bateau, etc. Hein, c'est pas possible. Il leur a dit, un bateau, un petit bateau, vous ne pouvez pas accepter et concevoir qu'il puisse faire cela sans le capitaine et sans les autres, les matelots avec lui. Comment se fait-il cet univers? Naam, vous concevez qu'il est venu de lui-même et qu'il n'y a pas quelqu'un qui le guide. Il a dit, ça je comprends pas. Le bateau, naam, le bateau, vous n'acceptez pas qu'il ne peut pas faire ça tout seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le guide. Et l'univers, subhanallah, l'immense univers. Comment se fait-il que vous acceptez qu'il n'y ait pas quelqu'un qui le régisse? Ils se sont tus. Ils n'ont pas fait de débat. Ils se sont tus. Yani, quand ils ont commencé à se frapper la tête, ils ont dit au fond, là, c'est vrai, hein, c'est vrai, hein, on n'a pas pensé à ça. El-Mouhim, Cheikh Fawzan dit, c'est-à-dire, lorsque Allah Ta'ala dit sourds, muets et aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas revenir vers l'islam, au fond d'eux-mêmes. Allah Ta'ala dit à leur propos. Allah Ta'ala dit à leur propos. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون 926 926 Ne voient-ils pas que chaque année on les éprouve une ou deux fois? Malgré cela, ils ne se repentent et ne se souviennent. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ne voient-ils pas? Pourquoi on a dit tout à l'heure aveugle? Aveugle. Pourquoi aveugle? Ils ne voient pas. Ils ne voient pas quoi? Ils ne voient pas que chaque année, on leur donne une ou deux épreuves. Chaque année, ce qu'on appelle comme ce qu'on appelle des inondations, que tout le monde voit à la télé, des inondations, de grandes inondations, nam, des tremblements de terre, chaque année une ou deux fois, nam, personne, yani, ne veut revenir vers l'haq et dire, nam. Donc, il faut faire tawba. Il faut regarder les gens comment qu'ils meurent devant moi. Non, toute ma famille est partie, inondée. Toute ma famille, tsunami, ceci, cela. Non, tirine avec les vents. Comment ça s'appelle avec les trucs aux États-Unis? Presque chaque mois où là il y a, comment ça s'appelle avec les vents donc qui détruisent tout? Comment que ça s'appelle? Un nom. Les ouragans. Non. Presque chaque semaine, États-Unis, en Floride ou je ne sais où, presque chaque mois, il y a un vent terrible qui vient envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour faire réveiller les gens. Personne ne se réveille. Le feu en Australie, au Canada, aux États-Unis, des milliers d'hectares, chaque mois, chaque semaine, chaque été, personne ne se réveille. Il vient à la télé, il te dit, une catastrophe naturelle. Le kafir, quand il dit une catastrophe naturelle, plus ou moins il est excusé. Le musulman, le speaker et la speakerine musulmane, Elle fait la prière, peut-être. Elle s'assoit, elle dit, une catastrophe naturelle a touché aujourd'hui l'Algérie. Une catastrophe naturelle qui est venue de la nature, au lieu de dire divine, naturelle. C'est la nature qui a fait ça. Subhanallah al-Azim. Ne voit-il pas que chaque année on les éprouve, une fois ou deux fois? Même nous, chaque année on est éprouvé. Naam. Surtout les pervers de nous, ceux qui font les grands péchés. Chaque année des épreuves, des accidents de voiture, des maladies, des pertes dans la famille. Et il revient pas, il se réveille pas. En train de dormir, en train de dormir, il se réveille pas. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, dit rahimahullah, il y a une divergence entre les savants de l'acceptation du repentir de l'hypocrite, de le repentir apparent, du fait que celui-ci ne peut se savoir, pourquoi? Car il se montre toujours musulman. Donc tu ne peux pas savoir s'il a vraiment fait le repentir ou pas. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Subhanakallah, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Puisse Allah azzawajal réveiller nos cœurs et les soigner. Car nos cœurs sont malades et certains de nous ont des cœurs presque morts. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala les ressusciter. On va dire les ressusciter avant qu'il ne soit trop tard. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك on se rencontre dans 10 minutes ou un quart d'heure les réponses إن شاء الله تعالى aux questions السلام عليكم ورحمة الله وبركاته eh on voit les 10 euros بعد on va voir allez السلام عليكم
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله شيخ première question question d'une sœur qui dit شيخ qu'Allah vous ennoblisse vous protège de tout mal et vous fasse mourir en pleine soumission. Je voulais savoir s'il était permis de donner une personne spécifique, de nommer une personne spécifique d'hypocrite où on ne peut pas voir le cœur des gens. Barakallahu fikoum cheikh. Donc, est-il permis de nommer une personne spécifiquement d'hypocrite ou est-ce qu'on n'est pas censé voir le cœur des gens? Barakallahu fikoum.
Je pense, wallahu ta'ala, que la personne est en train de parler de majeur, c'est de cela qu'elle est en train de parler, Allahu a'lam, c'est-à-dire de dire d'une personne qu'elle est une hypocrite, c'est-à-dire que elle ne croit pas en Allah au jour dernier, mais que elle fait semblant d'être musulmane. Et ceci est très grave, si c'est, parce que pourquoi? Parce qu'on peut, comme elle a dit, elle, on peut pas savoir ce qu'il y a dans le cœur. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le cœur. Il est possible que cette personne soit une musulmane, mais elle a beaucoup de défauts, beaucoup de péchés, et joue. Des fois elle prie, des fois elle ne prie pas, des fois. Donc c'est très difficile de dire à une personne que c'est une hypocrite, dans le sens que c'est une kafira. Si tu dis qu'une personne est hypocrite, ça veut dire qu'elle est kafira. Alors que peut-être tu la vois en train de prier. Donc comment se fait-il? Est-ce que tu as vu ce qu'il y avait dans son cœur. C'est possible. Il est possible de lui dire, par exemple, tu fais, là, c'est possible de dire comme ça, mais de lui dire quand tu es hypocrite, en ce sens que il y a contradiction entre ce qu'il y a dans ton cœur et dans les actes, c'est difficile de dire cela. Non, il vaut mieux éviter. Non, tfadlan.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur. En fait, cher, j'ai une question sur le cours de mercredi dernier. Quand vous avez parlé de la mécréance mineure, sur le fait de jurer par un autre qu'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. J'aimerais savoir, cher, qu'en est-il du fait de dire « je te jure » ou « je te promets » sans rien ajouter par la suite? Est-ce comme le fait de jurer sur Allah? Car il m'arrive souvent de dire ça comme expression pour dire c'est vrai, t'as raison. J'espère que vous avez compris, cher. En fait, il y a beaucoup de personnes, cher, lorsqu'ils s'expriment en français, ils disent je te jure comme pour dire t'as raison ou quelque chose comme ça. C'est plus une expression que le fait de vraiment jurer. T'as pas de balle, cher.
La personne, dans cette question, a parlé de deux choses. Je te jure et je te promets. Je te promets, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas, ça rentre pas dans le Aïmen. Aïmen, c'est-à-dire le fait de jurer. Je te promets de, que c'est vrai ou là que je te donne un livre ou là je vois pas où est ici le fait de jurer. Mais quand on dit je te jure que ça c'est vrai ou là que c'est pas vrai ou là, les savants ont dit, les savants ont dit. Quand tu dis je te jure, ce n'est pas suffisant. Non, il faut jurer par quelque chose. Si tu jures par Allah, tu as fait tawhid, tu as juré par autre qu'Allah, tu as fait le petit, bien sûr. Maintenant, les savants ont dit, quand tu dis à quelqu'un, par exemple, Oksim, que je te donne quelque chose. Je te jure que je te donne quelque chose. Tant que tu n'as pas dit par qui tu jures, ça ne compte pas. Ça n'est pas dans l'Aïmen. Quelqu'un, je te jure que, par exemple, en arabe, Oksimo, que j'ai vu X ou la Y. Tu as dit je jure. Je jure ou les je te jure, toi. Je jure, c'est-à-dire que je suis en train de te jurer. Mais tu n'as pas dit par qui tu jures. C'est ça l'essentiel. Tant que tu n'as pas dit par qui tu jures, ça ne compte pas. C'est là-haut. Il faut dire par qui tu jures. Je jure par Allah que telle chose. Je te jure à toi, par Allah, que telle chose est vraie ou fausse ou la Hagda. Tant que tu n'as pas dit par qui tu jures, ça ne compte pas. C'est du là-haut. Naam. Tfadlan.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: Ya cher, jazakallahu khayra. Jazakumullahu khayra pour tous vos efforts et le temps que vous nous accordez. Est-ce que l'hypocrite sait qu'il est hypocrite ou a-t-il confiance du fait qu'il ne croit pas et pratique quand même? Donc, est-ce que l'hypocrisie est connue par la personne elle-même ou pas, cher? Barakallahu fikoum.
J'ai compris la première partie de la question. C'est quoi la deuxième, Jazakallah?
En fait, c'est la même chose, cher, c'était juste une précision. Donc, est-ce que la personne a conscience ou pas? Ou est-ce qu'elle pratique sans savoir qu'elle est hypocrite, en fait?
Non, l'hypocrite est consciente de ce qu'elle fait et elle sait. Et elle sait ce qu'elle est en train de faire. Et elle dit même que c'est grave pour moi ce que je suis en train de faire. Elle sait qu'elle est en train de ruser. Et croit qu'elle va tromper les gens ou bien tromper Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit la fois passée, c'est quoi la règle? Que toute personne qui fait un péché sans le savoir, c'est pas un péché. Il faudrait que tu saches ce que tu es en train de faire et tu le fais. C'est là que tu as fait un péché et que tu es châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. Tfadlan.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: Haïkumullah, cher. En ce qui concerne l'hypocrisie majeure, est-ce que le fait de retarder ses prières ou de rater la prière du Sobh ou du Fajr, est-ce que cela fait partie de l'hypocrisie majeure? Barakallahu fikoum, cher.
Ça fait partie de l'hypocrisie mineure. Pourquoi? On a dit tout à l'heure, l'une des différences entre les deux hypocrisies, majeure et mineure, c'est que la majeure, c'est dans la croyance, et la mineure, c'est dans les actes. Et ici, c'est quoi? C'est la salat. La salat, c'est les actes. Quand tu loupes, bon, nous tous on loupe, le prophète, lui-même, une fois, il est allé concilier entre deux tribus. Quand il est arrivé, il a loupé la salat. Il a trouvé qu'ils ont fait la prière. Il est allé à la maison, il a prié. C'est pas le fait de louper, mais de ne pas y aller carrément. De ne pas y aller, de dire, allez, je suis fatigué, je termine le film ou là, et tu n'y vas pas. Ensuite, quand quelqu'un fait comme ça, il a fait une des caractéristiques des hypocrites. Il n'est pas devenu hypocrite. Non, il a fait une des caractéristiques des hypocrites. Naam. Tfadlan.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: Jazakumullah khayra, cher, pour tout ce que vous faites ainsi que les admins. La question: quelle attitude adopter envers les hypocrites qui souvent font partie de notre entourage familial ou alors notre entourage professionnel, voire amical? Doit-on les mettre de côté et les ignorer ou traiter avec eux comme toute personne et ne pas les suivre uniquement quand il s'agit de questions en contradiction avec les recommandations de la religion? Barakallahu fikoum, cher.
Est-ce que cette personne parle de l'hypocrite majeur ou mineur? Dans chaque question qui a rapport avec le cours, précisez Barakallahu fikoum. Faddal.
En attendant la précision du frère, Inch'Allah, question suivante d'un frère qui dit lors du dernier cours, qui portait sur les différences entre le kufr akbar wa asrar, vous aviez évoqué le fait que renier les bienfaits d'Allah constitue du kufr asrar. Et vous aviez aussi évoqué comme exemple un hadith qui parle de la femme qui renie les bienfaits de son mari. Et vous aviez mis l'accent sur le verbe employé par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, qui est le verbe kafara. Kafara. Ma question est de savoir, donc d'après votre citation de ce hadith, si le fait que la femme renie les bienfaits de son mari, cela représente aussi du kufr asrar? Hayakumullah shir barakallahu fikum.
Justement, justement, c'est ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le mari fait tout à sa femme, il est doux, il lui achète des choses, il l'emmène se promener, il lui donne tout ce qu'elle veut. Ce sont des bienfaits, des ni'mas pour elle. Ensuite, elle dit, il ne m'en a jamais donné. Celui-là, depuis que je le connais, il ne fait que du mal. Elle est rentrée dans le coffre. De quoi? De la ni'ma. Elle a fait un coffre mineur. C'est le coffre de la ni'ma. Quand le coffre, il a relation avec la ni'ma, il est bien fait, on l'appelle coffre mineur. Naam. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des femmes qui seront en enfer seront, y rentreront à cause de ce coffre. À cause de ce coffre mineur. Tfadlal.
Barakallahu fikoum cher. Donc le frère de la question précédente m'a dit que c'est pour les deux, que ce soit la grande hypocrisie ou la petite hypocrisie. Est-ce que vous vous souvenez de la question, cher?
La question c'était, est-ce que, yani, comment qu'on doit se comporter avec eux? Reprends-moi si c'est faux. Je dis, pour dire que.
Cher, vous avez perdu le micro.
Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Fais saute. Shabab, fais saut. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Il y a un petit décalage, je disais, pour dire, non, c'est très difficile de dire que dans ma famille, il y a quelqu'un qui est hypocrite de la grande hypocrisie. Car il faudrait bien comprendre une chose. Quand on dit d'une personne qu'elle est hypocrite de la grande hypocrisie, ça veut dire on a fait sortir cette personne de l'islam. Attention, il faut être bien conscient de ce qu'on fait. Quand tu dis il y a dans ma famille des hypocrites majeurs, ça veut dire ce ne sont pas des musulmans. L'hypocrite majeur, c'est quelqu'un qui montre l'islam, c'est tout. Mais dans son cœur, il dit, je ne crois ni en Allah, ni en ses messagers, ni en ses livres, ni en les anges, ni en rien. Donc je dis à cette personne, qu'il y ait dans ta famille ce genre d'hypocrite. Pourquoi? Pour la seule raison. Qu'est-ce que, yani, il perdrait quoi, lui, cette personne? Elle perdrait quoi? En disant carrément qu'elle ne croit pas. Et on bat. Elle a peur de toi ou là? Non. Pourquoi elle va jouer, yani, à faire semblant de faire la prière, yani, et elle ne fait pas? Non. Ça m'étonnerait qu'il y ait, yani, de nos jours comme ça, yani, des hypocrites. Vraiment, il y a un majeur, majeur. Il faut qu'il y ait, par exemple, une bataille où là, ils vont se cacher avec les musulmans pour peur d'être tués. Et maintenant, si personne n'applique sur eux les lois, la loi du talion, quel intérêt a-t-il de montrer Zama qu'il fait la prière alors qu'il ne la fait pas quand il est seul? Ça m'étonnerait. Je crois, Allahu A'lam, que tu parles des hypocrites mineurs. Ils font beaucoup des péchés qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas, il faut essayer de parler avec eux avec douceur et de leur donner des nasihats et de leur dire, avec vos actes, vous ressemblez aux hypocrites mineurs. Vous faites exactement les actes des hypocrites. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal.
Allah fait comme cher. Question suivante d'une sœur qui dit: j'aimerais savoir si parmi mes fréquentations, une sœur a des traits de l'hypocrisie mineure, et sachant qu'elle n'est pas encore dans le minhadj, suis-je obligé de la fréquenter ou suis-je autorisé à la délaisser le temps qu'elle se réforme, car cela fait près de 2 ans qu'elle me répète qu'elle va faire ceci ou cela dans sa pratique, mais ne fait rien. Et quand je dis qu'elle ne fait rien, cela veut dire aussi qu'à force de la fréquenter, il m'arrive de tomber dans certains égarements si je ne me ressaisis pas. Barakallahu fikoum, cher.
Quand on fréquente une personne, ça doit être d'abord pour notre bien. Si je la fréquente pour lui faire un nasiha, l'attirer vers le minhaj, lui faire da'wa. Mais à condition que moi je ne coule pas. Si maintenant en fréquentant une personne, c'est moi qui vais couler, dans ce cas, c'est interdit de la fréquenter. Vous avez compris? Donc, je dis à cette sœur, si vraiment sens que tu es dans les égarements à cause d'elle, ou bien dans les péchés, il vaut mieux l'éviter. Et tu peux, Yanni, ou du moins diminuer les contacts. Ne la rencontrer que de temps en temps, lui téléphoner de temps en temps. C'est pas obligé de couper tous les ponts. Non. Mais si tu es sûr que maintenant, Yanni, en lui faisant la da'wa, que, alhamdoulilah, ça commence à donner ses fruits, et que toi, tu es, masha'Allah, non, tu n'es pas influencé par elle, continue à la fréquenter. Sinon, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, personne ne t'oblige à fréquenter une personne qui te fait du mal indirectement. Tfadlal.
Barakallah fait comme cher. Question suivante d'une sœur qui dit: est-ce qu'une personne qui est insouciante fait partie des hypocrites ou est proche de cela? Si par exemple on est en train de faire un péché, on a conscience qu'il s'agit d'un péché, mais malheureusement, quand on entend un rappel, on n'a pas envie d'écouter ou ça ne nous fait ni chaud ni froid. Comment pourrait-on classer ce genre de personne? Barakallah fait comme cher et qu'Allah vous préserve.
Si c'est possible de répéter la phrase où tu as dit, quand on est en train de faire un péché, ensuite tu as employé le verbe écouter. J'ai pas bien compris la relation de écouter. Tfadlal.
Donc la sœur dit, si par exemple on est en train de faire un péché, on a conscience qu'il s'agit d'un péché, mais malheureusement quand on entend un rappel, on n'a pas envie d'écouter ce rappel, ou alors ce rappel ne nous fait ni chaud ni froid. Donc on persiste dans le péché, cher. Comment pourrait-on classer ce genre de personne? Barakallahu fikoum.
Non, on va classer cette personne que elle n'est ni mécréante ni hypocrite. C'est une personne qui est aveuglée par ses passions au moment du péché. Vous savez, des fois la personne est pieuse et masha'Allah. Et d'un coup, non, elle tombe dans une fitna et voilà, elle s'excite haram, elle s'excite et elle fait le péché, subhanallah l'adhim. C'est le shaitan qui a le dessus dans son cœur. Vous savez que dans un hadith Hassan, Cheikh Al-Albani a dit le hadith est bon. Que le prophète a dit que nous tous, on avait quoi? On avait un ange et un shaitan qui, disons, se disputent nos âmes, notre âme ou bien notre cœur. Et si c'est le melek, l'ange qui a le dessus, tu te sens apaisé, mashallah, le cœur plein de foi, tu veux faire des obéissances, nam, une obéissance sur obéissance, obéissance sur obéissance. Si jamais le shaitan a le dessus, nam, tu n'as plus envie de faire l'obéissance, ça te plaît le péché, et tu es aveuglé, a'oudhou billah. Des fois, des personnes, mashallah, connues pour leur foi, mashallah, on commençait juste avec discuter avec une sœur, comment ça va, comment la baisse, hop, et ils sont tombés dans la zina, a'oudhou billah. Lui-même, la personne, quand elle revient, elle dit, c'est pas possible. Moi, j'ai fait la zina, moi, j'ai fait la zina. Et la sœur dit aussi, moi, avec le sitar, les gants, moi, je fais la zina, a'oudhou billah. Pourquoi? Les deux savent que c'est haram, mais ils étaient aveuglés. Au moment du péché, la personne s'aveugle. Sauf la personne qui, ta'tasim billah, revient à Allah et demande à Allah ta'ala de l'aider et de la guider et de lui montrer la clairvoyance. Sinon, si la personne s'oublie, le shaitan lui fait oublier Allah, lui fait oublier l'islam, lui fait oublier la droiture, elle peut faire tous les péchés. A'udhu billah. Qu'Allah ta'ala nous préserve. Tfadlal.
Barakallah fikoum, cher. Si vous me permettez juste une petite faïda. Le tafsir du verset, pour ceux qui craignent de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins. Donc, parmi les tafsirs de ce verset, il est dit que c'est la personne qui est sur le point de commettre un péché, qui se rappelle la grandeur d'Allah Azzawajal et délaisse ce péché. Et pour celui-ci, il y aura une récompense de jardin. Allahu a'lam. Question suivante, question d'une sœur qui dit: à propos de la caractéristique de l'hypocrite, qu'il s'agit de si on lui confie un dépôt, il trahit. Est-ce valable, par exemple, de prêter des livres sur le tawhid ou autre, mais que la sœur ne nous l'a jamais rendu, même si on le lui a rappelé, ou même qu'on nous rende un djilbab en mauvais état, etc. Est-ce une caractéristique de l'hypocrite? Barakallahu fikoum, cheikh.
Pour que ça devienne de l'hypocrite, il faudrait que la personne sache que le livre, naam, que tu lui as prêté, t'appartient à toi. Car des fois, on prête des livres à des gens et la faute vient de nous. Pourquoi? On n'a pas mis notre cachet, par exemple, sur le livre. Ni on a écrit quelque chose, notre nom sur le livre. Moi, autrefois, j'avais un cachet avec mon nom et mon prénom et je ne sais pas ce qu'il y avait, une autre phrase. Parce que pourquoi tu prêtes à quelqu'un le livre? Ensuite, toi-même, tu oublies à qui tu l'as prêté. Et la personne qui a le livre aussi oublie. Elle dit, je ne sais pas qui m'a prêté ce livre. Ça fait 6 mois qu'il est chez moi, ou là une année que je vois ce livre, mais je ne sais pas qui il appartient. Donc il ne peut pas le rendre. Mais s'il y avait ton nom à l'intérieur, il te l'aurait rendu. Donc c'est un peu notre faute. Donc je dis, si la personne ne sait pas à qui appartient le livre et ne le rend pas, elle ne rentre pas dans le hadith. Mais si elle sait à qui il appartient et ne veut pas le rendre, elle fait une des caractéristiques des hypocrites, puisque Allah Ta'ala nous préserver. Tfadlal. Et la même chose pour le djilbab et toute chose, tout dépôt. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cheikh. Question suivante d'une sœur qui dit: Hassanallah ilaykoum, cheikh. Lorsque vous avez expliqué les 4 caractéristiques du munafiq, quelle est la différence entre celui qui n'en a qu'une et celui qui rassemble les 4? Est-ce que l'un est dans le petit nifaq ou l'autre dans le grand nifaq ou autre? Barakallahu fikoum, cheikh.
Si l'on a fait une, deux ou trois, ce n'est pas comme celui qu'il en a fait qu'une seule et comme celui qui n'en a pas fait du tout. J'explique. Celui qui en fait une est mieux que celui qui a fait 2 caractéristiques ou 3. Celui qui a fait 2 est mieux que celui qui en a fait 3. Non. Celui qui n'en a pas fait du tout est mieux que celui qui en a fait une. Parce que celui-là, en faisant une, déjà, il a une des caractéristiques des munafiqines, alors que l'autre n'en a pas du tout. Et celui qui en fait 2, ça veut dire le nifaq est, yani, chez lui plus fort que celui qui en a fait une seule. Et comme ça. Maintenant, le hadith a dit que celui qui en fait les 4, c'est vraiment difficile pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est un pur munafiq. Il a dit, il est devenu un vrai munafiq. Naam. Donc, celui qui fait 4, c'est grave. Celui qui fait les 4. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, veut te faire, yani, éloigner. Pour que tu ne sois pas un vrai munafiq. C'est pour ça qu'il te dit, attention, si tu en fais 1, 2, 3, mais attention que tu en fasses 4. Maintenant, si tu en fais 4, il n'y a pas une grande différence entre toi et l'autre. Et l'autre, le munafiq majeur, même je dis, si on ne peut pas dire de lui qu'il est devenu un munafiq majeur. Non, pourquoi? Parce que le munafiq majeur, c'est celui qui ne croit pas du tout en islam. Alors que celui qui en a fait les 4, qui vient de faire les 4, il croit toujours en islam, il croit en Allah, au paradis, il fait les prières, il fait même la prière de la nuit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, veut yani, employer ce qu'on appelle comme une métaphore pour montrer, yani, pour que on se sauve au maximum des caractéristiques des hypocrites. Ils te disent, tu fais 1, 2, ça commence à s'aggraver, 3, ça s'aggrave encore. Maintenant, si tu fais 4, c'est vraiment, naam, une sœur dit, mes chers, il ne sort pas, disons seulement, naam, il ne sort pas, bien sûr. S'il sort, c'est très grave. Je viens de dire qu'il ne sortait pas. Je viens de dire que, même s'il fait les 4, il n'est pas sorti. La preuve, il croit en Allah au jour dernier, il fait la prière, et jeûne peut-être le lundi et le jeudi. Tandis que l'hypocrite majeur ne croit ni en Allah, ni en ses livres, ni en ses messagers. Naam, tfadlal.
Question suivante d'une sœur, donc, dans une partie de la question, vous venez d'y répondre. Hafidhakum Allah, cher. Si une personne a les quatre caractéristiques du nifaq al-asghar, est-ce que cela devient du nifaq akbar? Et donc la deuxième partie, et comment guérir, cheikh? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.
Question a dit comment quoi? Et comment?
Et comment guérir de l'hypocrisie, cheikh? Barakallahu fikum.
Et la première, rappelle-moi, c'était quoi la première question, Barakallahu fik.
C'était est-ce qu'une personne qui a les quatre caractéristiques de la petite hypocrisie, est-ce que cela l'a fait devenir une grande hypocrite?
En faisant les quatre, la personne n'est pas devenue une grande hypocrite majeure. Mais elle n'est pas loin si elle va continuer comme ça. Elle a vraiment ouvert la porte au point où le prophète a dit pur. Il a dit pur hypocrite, comme ça. Pur. Il a employé le mot. Munafiq khalis, pur. Mais il n'est pas le munafiq qui va être dans le bas-fond de Jahannam, ma'oudou billah. Mais le prophète veut dire que maintenant, il ne reste plus de grande différence entre toi, l'hypocrite le petit, et le grand, puisque maintenant tu as fait les quatre. Donc, qu'est-ce qui va t'obliger aussi à ne pas faire 5, 6, 7 et à dire ensuite, je crois plus en l'ayant et au jour dernier? C'est pour ça que c'est une façon de nous faire peur pour qu'on ne fasse pas cela. La deuxième des choses, comment guérir? On guérit en faisant le contraire, c'est tout. J'ai l'habitude de mentir. Il faut que je dise, il faut que j'arrête de mentir, bismillah. Non, il faut que je me ressaisisse. Ya Allah, ya Allah, je promets qu'inch'Allah ta'ala, je ne vais plus mentir. Et que je vais faire mon possible pour ne plus mentir. Et comme ça, ce sont des choses qu'on apprend. Ce sont des choses qu'on apprend. La même chose pour celui qui loupe les promesses. Il jure Allah qu'il ne va plus le refaire. Et comme ça, en se ressaisissant, en se corrigeant, Naam, tu es en train de te soigner, bi'idhnillahi ta'ala, et tu vas guérir. Tu vas guérir ensuite, tu vas détester ces choses. Tu vas détester le mensonge. Et il n'y a pas, parmi les quatre qui ont été cités, il n'y a pas plus grave que le mensonge. Quand la personne ment, elle tombe, sa valeur tombe de nos yeux. Et ensuite, on ne va plus la croire. Quand elle va parler, on va parler nous entre nous. On va dire, il faut pas l'écouter, c'est le menteur. C'est le menteuse, Apple. Ensuite, on va se dire, ah, c'est X qui t'a dit comme ça. Oh, X, c'est connu pour être un menteur. Oh, il t'a dit telle et telle chose, c'est pas vrai, il va pas te la donner, c'est un menteur. Et comme ça. Ensuite, la personne va dire la vérité, on va pas la croire. Pourquoi? Tellement elle nous a habitués à mentir à Oudoubillah. Fazal.
Barakallahu fikoum, cheikh. Question suivante d'une sœur qui dit Hassan Allah ilaykoum, ya cheikh. Concernant le hadith suivant, ô messager d'Allah, en vérité, l'un de nous ressent lui-même des choses qu'il lui est préférable de tomber du ciel plutôt que de les proférer. Il leur a dit, telle est la véritable foi. Je mets le hadith, cheikh. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est cela la véritable foi. Or, on a vu dans le cours précédent que le doute, donc le fait de douter sur l'existence d'Allah par exemple, fait partie de la grande mécréance, wal'iyadhu billah. Quelle est donc la différence entre ces suggestions et le doute? Comment savons-nous si c'est un doute qui fait sortir d'islam ou une simple suggestion du diable? Pouvez-vous nous expliquer la différence entre les deux, bi'idhnillahi ta'ala? Barakallahu fikum, cheikh, qu'Allah vous compte parmi les habitants du Firdaus, ainsi que tous les présents ici, et qui nous accorde la compagnie des pieux ici-bas et dans l'au-delà. Amin wa yer.
Amin. Barakallahu fik pour les doigts. Et c'est une très bonne question. En fait, entre le doute qui fait sortir de l'islam et les ouswas qui sont cités ici dans ce hadith, que même les sahaba n'ont pas été yani, préservés de ces ouswas, je dis, la différence est de taille. La différence est énorme. Dans le premier cas ici, celui des sahaba, et celui des ouswas. La personne croit en Allah dans son cœur. Et quand elle est seule, elle se dit que demain je vais mourir, je vais le rencontrer. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Des fois, elle est contente. Elle va dire, je vais rencontrer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je vais voir Abu Bakr, je vais voir Omar. Je vais demander comment. Je voudrais voir Ibrahim, je voudrais voir Youssouf, alayhi salam. Elle commence à dire des choses comme ça. Elle jeûne, mashallah. Des fois, elle fait la prière de la nuit. Elle va à la mosquée, toutes les salats. Elle fait l'aumône. Naam. Et ensuite, elle a des ouest-ouest de temps en temps. De temps en temps, il y a des choses qui viennent dans ta tête et qui te disent, il y en a qui veulent te chagriner. Commence à te dire des choses dans la tête. Naam. Alors que dans ton fort intérieur, quand tu chasses, tu dis, tu craches, ça y est, tu vas oublier et tu vas revenir à la base. Qui est quoi? Qui est la croyance en Allah et au jour dernier, au messager. Tandis que le premier, non, celui qui fait le doute, qui fait sortir la mécréance, il a des doutes vraiment, yani au point où il ne sait pas. Il va même faire des recherches. Il ouvre des livres pour essayer de voir est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a un paradis ou il n'y a pas. Et il va téléphoner aux gens, à ses amis. Écoute, d'après toi, est-ce qu'il y a un paradis? J'ai des doutes. Je ne sais pas s'il y a Allah ou s'il n'y a pas. S'il y a paradis, s'il n'y a pas. Maintenant, s'il y a, moi, je ne vais pas y croire d'aller en enfer, mais peut-être qu'il n'y a pas. Et comme ça, il y a une grande différence de taille. De taille, naam. Et celui qui a des doutes, peut-être que même il n'adore pas Allah, il a des doutes. Tandis que l'autre, non. C'est un croyant, c'est un pieux, il va au Hajj, il fait la Umrah, mais de temps en temps il a des ouswas, c'est tout. Il y a une grande différence entre les deux. L'autre, il est malade, a'oudou billah. Il dort pas, il a des doutes. Naam. Tout le temps en train de penser. En train de penser. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a pas? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a pas? Naam. Qu'Allah ta'ala nous préserve. Tfadlan.
Question suivante d'une sœur qui dit: en ce qui concerne le fait d'être grossier lors d'une dispute, lors des disputes, et que cela rentre dans les signes de l'hypocrite, il m'arrive lorsque je suis très énervé sur ma grande fille, car elle me manque de respect ou autre, de lui dire des paroles telles que espèce de shaitana ou d'autres noms d'animaux, etc. Est-ce que cela rentre dans un signe d'hypocrisie, à savoir la grossièreté? Conseillez-moi, wa jazakum Allah bil Jannah, ainsi qu'à tous mes frères et sœurs. Amin. Barakallahu fikoum, cher.
Je dis Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Je crois Wallahu ta'ala alam que ce n'est pas ce que le shaitan a voulu. Afoun, le shaitan. Ce n'est pas ce que le hadith a voulu dire. Car en disant à ton fils, espèce de shaitan, ou bien tu fais comme le shaitan, ou bien ah, espèce de cheval, tu es un vrai shaitan, quelque chose comme ça. Naam. Allah ta'ala en parlant de certains gens a dit que. Naam. Allah ta'ala en parlant de certains gens a dit que. Innahum kanu. Ikhwan Shayatin. Il a dit, ce sont les frères des Shayatin. Ce sont les frères des Shayatin en parlant de certains gens. Et si tu es un frère du Shaitan, ça veut dire que tu es un Shaitan, tu ne peux pas être une autre personne. Donc, et pourtant, Allah Ta'ala, yani, ma'az Allah, qu'il soit grossi. Le Coran ne contient aucune grossièreté, bi'idhnillahi ta'ala. Grossier, c'est dire par exemple des gros mots. De dire à quelqu'un des gros mots et de lui faire la main ou bien de dire avec sa langue des gros mots. De cela vient le mot grossier. Wallahu ta'ala alam. Tfadlan. Allah ta'ala dit innal mubadhirin. Maintenant je me rappelle du verset. Innal mubadhirin kanu ikhwan shayatin. Ceux qui. Les gaspilleurs, ce sont les frères des shayatin. A'oudou billah. Tfadlan.
Question suivante d'un frère qui dit: je voudrais savoir concernant les catastrophes naturelles, qu'en est-il si, auparavant, avant ce cours, j'employais ce terme, tout en sachant que cela vient d'Allah Azzawajal, ai-je commis néanmoins un grand péché? Donc, ce qu'il faut dire, c'est bien catastrophe divine, cher. Barakallahu fikoum.
Quelqu'un dit une catastrophe, yani tabiiya, naturelle, en voulant dire par là, il entend par là que c'est quelque chose qui est arrivé à la nature. à la mer. Naam, ça a touché la nature. Naam. Mais il ne veut pas dire que c'est la nature elle-même qui a fait cela. S'il dit comme ça, c'est pas grave parce que. Qu'est-ce que j'allais dire? Parce que le frère qui disait autrefois catastrophe naturelle, sûrement. Oui, d'ailleurs, il a reconnu, il a dit je reconnaissais que ça venait d'Allah Azzawajal. C'est une faute dans l'expression, c'est tout. C'est une faute dans l'expression. Naam. On doit dire que cette catastrophe, yani, vient yani, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Mais s'il veut dire naturel que ça a rapport avec la nature, plus ou moins. Mais il faut que dans le cœur, il sache que ça vient d'Allah Azzawajal. Nous, on critique et on parlait de ceux qui disent yani, naturel dans le sens que c'est la nature qui est en colère. La nature qui est en colère et qui a fait cette chose et qui a fait cette inondation et comme ça. D'ailleurs, les kofars, c'est comme ça qu'ils pensent. Les kofars, ils disent naturel parce que ça vient d'elle-même, de la nature. Donc nous, inshallah ta'ala, on choisit les termes convenables et conformes avec la charia pour ne pas tromper les gens. Les gens, quand ils nous écoutent, donc ils vont prendre de nous et dire, voilà, ils disent que c'est naturel et c'est venu comme ça tout seul. Naam, tfadl.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: Jazakallahu khair, cher, pour ce cours très bénéfique, bienvenue. Donc, dans les pays de Kufr, dans les pays de mécréance, et en particulier chez nous en France, quel comportement devons-nous avoir en voyant des gens qui se réclament de l'islam et qui montrent, que ce soit la télévision ou autre, une grande haine envers la charia d'Allah Ta'ala, ou envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna? En défendant par exemple des caricatures contre notre prophète, alayhi salatu wassalam, comme l'a fait Mohamed Sifawi el-Khabith. Mohamed Sifawi, qui est un pseudo-journaliste algérien, cheikh, et qui est maintenant officier en France. Avons-nous droit, alors que nous sommes des gens de la masse, pas des talibou ilm, et n'ayant pas des paroles de savants concernant ces individus en particulier, pouvons-nous dire d'eux que ce sont des hypocrites, de la grande hypocrisie, ou même des apostats? Qu'Allah vous rallonge votre vie dans son obéissance, ainsi que tous nos savants salafis. Jazakallahu khair, cheikh, ainsi que tous les admins pour vos efforts. Amin. Barakallahu fikoum.
Amin, barakallahu fik. La personne qu'elle a citée, que ce frère a cité, Sifawi ou quelque chose comme ça, c'est la première fois que j'en entends parler. Je ne sais pas c'est qui. Maintenant, est-ce que l'un de vous pourrait me résumer c'est quoi exactement sa question? J'ai pas très bien compris. Et ce Sifawi ou la si. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Tfadlan.
En fait, Cheikh, il veut dire quel comportement devons-nous avoir devant toute personne qui se réclame de l'islam, mais pour faire plaisir aux koufars ou autres, donc on ne connaît pas exactement son intention. Donc la personne, elle se dit musulmane, etc. Mais que ce soit à la télévision ou autre, elle va casser pas mal de choses sur l'islam. Par exemple, que ce soit la polygamie ou dès qu'on va parler d'autres choses, dès qu'on va parler de la barbe, par exemple, ou autre, dénigrer la sunna, etc., en disant tout ça fait pas partie de l'islam, par exemple, ou autre. Et souvent, c'est pour plaire aux kuffars. Et sinon, s'ils ont d'autres attentions, Allahu a'lam. Donc, cher, est-ce qu'on peut dire que. Donc, sa question est, sachant qu'il n'a pas de parole de savant contre ces individus, donc personne n'a parlé, par exemple, sur ce Sifawi, est-ce que lui, de son côté, est-ce qu'il peut dire d'eux que ce sont des hypocrites qui ont fait la grande hypocrisie? Ou même des apostats qui sont sortis de l'islam. Barakallahu fikoum, cheikh.
En fait, j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas facile de dire de quelqu'un un apostat. Non, de dire de lui qu'il est devenu apostat sans avoir quoi établi la preuve sur lui et yani, éloigner de lui tout empêchement. Tout empêchement. Être sûr que yani, il a rempli ce qu'on appelle les conditions. Il a rempli les conditions. C'est pour cela que moi, pour me préserver demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir que Allah Ta'ala ne va pas me demander demain est-ce que Sifawi ou bien cette personne était apostat ou kafir ou bouddhiste ou juif ou musulman. Il va pas me demander ça. Il va me demander à moi, étais-tu musulman ou kafir ou bouddhiste, qu'est-ce que tu étais? C'est tout, moi. Donc moi j'essaie de sauver ma peau. Moi je veux d'abord sauver ma peau. Pourquoi maintenant, en accusant ce Sifaoui d'apostat, je risque de me priver du Jannah? Comme a dit le hadith, tu dis à quelqu'un kafir et qui n'est pas kafir, ça revient contre toi. La même chose apostat, car tu as dit kafir. Apostat c'est kafir. Pourquoi moi je vais dire apostat et ça va se retourner contre moi peut-être? Moi j'essaie de sauver ma peau, je m'occupe de moi-même, j'essaie comment est me corriger, me redresser. Et je dis, yani, que Allah subhanahu wa ta'ala guide les autres et yani, je peux mettre en garde contre la personne. Je dis, cette personne, yani, elle dit du mal de l'islam, cette personne critique ceci, cela, nam, sans pour autant juger yani, et faire donner la sentence finale, car la personne, elle dit que c'est une personne des gens de la masse, n'a pas les délits nécessaires, ni elle est yani, un homme de science. Nam. Hier, je passais devant la télévision. Je passais devant la télévision. Il y avait une femme assise qui devait avoir au moins 70 ans. Une Algérienne. Quand je suis arrivé, je passais. Quand j'ai entendu quelqu'un lui dire, et le hijab. Qu'est-ce que tu dis, toi, sur le hijab? Elle était dévoilée, bien sûr. Moi, personne ne rentre dans ma liberté individuelle. Personne n'a le droit de me dire il faut mettre le hijab. Le hijab, je ne le mets pas. Je ne mets pas de hijab. J'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, subhanallah, 70 ans. Et elle parle comme ça. Non, je ne mets pas de hijab. Et ensuite, elle est tombée dans le piège et elle a voulu se corriger. Elle a dit, moi, je ne crois pas au hijab. Ensuite, elle a corrigé. Elle a dit, c'est pas je ne crois pas, mais je ne le mets pas. Mais quand elle a dit, je ne crois pas, ça veut dire, c'est vraiment, je crois, Wallahu alam, ce qu'il avait dans son cœur. Elle a dit, parce qu'elle parle avec quoi? Elle parle avec haine. Elle parle avec haine contre le hijab et contre cette législation. Mais, j'ai pas dit là. J'ai dit que Allah subhanahu wa ta'ala la guide. Comme ça, 70 ans, elle est contre le hijab. Mskina, si elle savait, si elle mourait comme ça, Allah yahdiha mskina, une vieille pareille. Naam. Tfadl.
Question suivante d'une sœur qui dit: pouvez-vous expliquer et approfondir le quatrième caractéristique de l'hypocrite? Car dans un livre, j'avais vu également que cela parlait du fait de réagir avec mauvaise foi en cas de conflit. Donc en ce qui concerne la grossièreté, donc. Elle a lu dans un autre livre que cela parlait du fait de réagir avec mauvaise foi en cas de conflit, pas forcément insulter. Barakallahu fikoum, cher.
Si c'est possible de me donner le nom en arabe, qu'est-ce qu'elle a lu en arabe exactement? Naam. Maintenant, quand je parlais tout à l'heure de apostat et la question à laquelle je viens de répondre, maintenant, flagrant délit. Naam. Quand il vient quelqu'un et il fait une caricature du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il le montre nu, ou il le montre je ne sais pas quoi, il dit ça c'est le prophète, ça c'est Mohammed, ça c'est vraiment très grave. Ça. En disant qu'il est sorti de l'islam, naam, personne, yani, ne peut te dire que tu t'es trompé. Une chose très claire comme celle-là. Ou bien quelqu'un va venir et va s'asseoir à la télé et va dire, il n'y a pas Dieu. Quand on meurt, on va devenir poussière. Naam, celui-là, c'est un mécréant à 100%. Naam. Mais dans des choses qui ne sont pas très claires, il faut pas se hâter, inshallah ta'ala, et se précipiter. Tfadlan.
Barakallahu fikoum, cheikh. Question suivante d'un frère qui dit: le croyant doit-il craindre d'être hypocrite, tel que les compagnons, comme le rapporte Hassan al-Basri, rahimahullah. Barakallahu fikoum, cheikh.
Naam, le croyant doit beaucoup avoir peur, beaucoup plus avoir peur d'être hypocrite que mécréant. Car il est possible que toi, yani, tu dises, là, je sors de l'islam, je vais plus croire. Mais le croyant a beaucoup peur d'être hypocrite en ce sens de faire yani, des actes, par exemple, yani, pour les gens, etc., et devant les gens, et faire l'ostentation, et faire ces choses-là. Ce sont ces choses-là, naam, parce que l'hypocrisie mineure, elle a rapport avec quoi? Avec les actes. Et nous, on a peur des actes, naam, on a peur des actes. Donner des rendez-vous loupés, mentir dans plusieurs cas, naam, être grossier quand je me dispute avec quelqu'un. Non, quant à la yani la personne, yani elle fait, sans le vouloir déjà, elle fuit d'elle. Mais il a peur de tomber dans l'hypocrisie. Non, tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante. Voilà. Question d'une sœur qui dit: comment réagir avec mon père qui parfois dit de certaines personnes que ce sont des hypocrites? Barakallahu fikoum, cher.
Ouf, beaucoup de gens disent cela. Alors qu'au fond de leur cœur, peut-être ils n'attestent pas cela. Des fois, il y a des gens qui disent cela par jalousie. Qui disent cela par jalousie. Des fois, moi, je connais quelqu'un de la famille, je lui dis, pourquoi tu vas pas à la prière, à la fois, pourquoi tu vas pas à la mosquée, ou là, pourquoi tu laisses pas la barbe, ou là. Elle te dit, ouf, les barbus, je les connais, sont des hypocrites. Non, tu les vois à la mosquée avec les barbes, etc. Mais quand ils sortent, ils font ceci, ils font cela en cachette. Oh, je connais les barbus. Moi, je vais pas à la mosquée. Je prie à la maison. Enfin, je suis sincère, plus sincère qu'eux. Je les connais, les barbus, les hypocrites. Des fois, il dit comme ça, mais c'est surtout par jalousie. Il sait qu'il peut pas atteindre ce niveau. Il dit comme ça. Sinon, dans son cœur, il sait qu'ils sont mieux que lui. Il sait qu'ils sont mieux que lui. Celui-là, bien sûr, aura fait un grand péché pour avoir quoi? Pour avoir, calomnié. Pour avoir calomnié des gens qui sont quoi? Qui sont, innocents. Qui sont innocents. Naam. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Là, il y a une sœur, cher, très récemment convertie, qui a des problèmes avec sa famille, notamment le fait que sa mère demande à ce qu'elle cache son islam et qu'elle ne le montre pas à son père, et qu'elle évite de mettre des vêtements donc, comme le hijab et autres, et éviter aussi de s'habiller avec des vêtements amples, et donc de cacher véritablement son islam. Et au point où elle sent que si elle fait ça, chère, c'est de l'hypocrisie. Donc elle veut savoir déjà si c'est de l'hypocrisie et aimerait avoir des conseils de votre part, chère, pour le comportement qu'elle doit adopter à la fois avec sa mère et avec sa famille. Barakallahu fikoum, mais tout conseil, sachant qu'elle est récemment convertie. Barakallahu fikoum, chère.
Non, dans cette histoire et le problème de cette sœur, en fait, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent, il n'y a pas un seul facteur. Le premier, quel âge qu'elle a? Non, est-ce qu'elle est sous leur tutelle ou pas? Est-ce qu'elle vit avec eux dans le même appartement ou bien elle vit seule? Troisièmement, quel est le caractère de son père? S'il va savoir, c'est le genre qui va la frapper, la battre et la faire l'expulser de la maison. Ou bien c'est seulement il va pas accepter et se chagriner. Non, c'est pour cela que je dis il y a plusieurs facteurs. Donc on commence on dit, non, la base c'est que si mon père non, ne va me faire aucun mal, non, je n'ai pas à cacher cela. Non, je n'ai pas à cacher cela. Pourquoi? C'est quelque chose qui ne se cache pas. Non, car d'ailleurs il le saura tôt ou tard. Et maintenant, s'il y a des problèmes qui risquent de surgir, de me frapper, de me battre, de m'expulser dans la rue, je peux faire cela en cachette jusqu'à ce que Allah Ta'ala me fasse une solution. Une seconde, j'ai une urgence dans le téléphone. Naam, salam alaykoum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Donc, on me dit seul. Elle vit seule, donc. Yani, je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut me faire comme problème, puisque je vis seul. Donc, je ne vois pas. Et qu'elle vivait avec lui, il peut la jeter dehors, elle n'a pas où aller. Non, maintenant qu'elle vit seule, non, il n'y a aucun problème. Yani, de qu'il sache, par exemple. Seulement, yani, ce n'est pas obligé qu'il le sache demain. Mais, yani, petit à petit, Inch'Allah Ta'ala, il le saura. Et la meilleure façon, ce serait que ta mère le lui dise. Non, la meilleure façon serait que ta mère le lui dise. Car l'essentiel, c'est quoi? C'est de sauver sa peau. Moi, maintenant, alhamdoulilah, je suis musulmane. Qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, non, c'est pas très important. Mais il doit le savoir, il le saura tôt ou tard. Car tu es sa fille, tu vas le rencontrer, il va te voir. Voilà, si elle craint la violence du père, il faut qu'elle aille doucement. Naam, qu'elle se précipite pas pour lui annoncer cela. Naam, qu'elle yani, il travaille doucement, inshallah ta'ala, jusqu'à ce que yani, il accepte petit à petit. Jusqu'à ce qu'il accepte petit à petit, sans toutefois désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans toutefois désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc elle devrait donc yani, éviter au maximum de rencontrer. Car quand il la rencontre, yani, il va la voir comment qu'elle est habillée. Donc elle devrait au maximum ne le voir que de temps en temps. Et les fois où elle va le voir, là, donc quand elle rentre à la maison, ensuite elle rentre lorsqu'il n'est pas à la maison. Elle rentre, elle va chez lui lorsqu'il n'est pas à la maison. Et ensuite, elle enlève son voile. Et lui, quand il voit, bien sûr, il ne voit rien. Et quand elle sort de la maison quand il n'est pas à la maison aussi. Là, pour qu'il ne sache pas comment qu'elle s'habille. Tfadlal. Ensuite, est-ce que vous m'entendez toujours? Alhamdoulilah. Il y avait une sœur qui, une reconvertie aussi, qui cherchait à faire la shahada. Cherchait à faire la shahada. J'avais oublié de lui dire que c'était possible de la faire dans le salon. J'avais oublié de lui dire que c'était possible de la faire dans le salon. Je ne sais pas si elle est là. Allahu alam. Al-Muhim. Je dis pour tous les reconvertis, le reconverti, reconverti avec IS et reconverti avec IES, que vous devrez remercier Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit de vous avoir guidé, l'âme, à ce que vous soyez de son parti, Hizbullah. Car il y a en islam, en fait, il n'y a que deux partis. Le parti de Satan et le parti d'Allah azzawajal. Le parti d'Allah font partie de ce parti les gens qui adorent Allah Ta'ala. Naam. Et qui ne vivent pas la vie bestiale. Mais vivent la vie d'ange. Naam. Vivent leur vie. Essayer de ravir Allah Subhanahu wa Ta'ala au maximum. De lui obéir au maximum. De s'éloigner de sa désobéissance au maximum. Et ceux qui sont dans le parti de Satan ne pensent jamais à cela. Ils veulent boire, manger et assouvir leur passion charnelle, sans savoir est-ce qu'ils font est permis ou bien n'est pas permis. Donc, vous devez remercier Allah subhanahu wa ta'ala de vous avoir guidé à cette lumière qui est quoi? Qui est le paradis de cette vie et de l'au-delà. Car toute personne qui n'a pas connu son Seigneur vit dans l'enfer de cette dunya. Cette dunya, ce bas monde a aussi un enfer. Faire du cœur. Ton cœur vit prisonnier, prisonnier des passions et des tentations et de Satan, a'oudou billah. Quand quelqu'un rentre en islam, il a affranchi son cœur. Ton cœur maintenant vit pour Allah subhanahu wa ta'ala, bat pour Allah. Naam. Je ne cherche que comment ravir Allah. Ici et dans l'au-delà. Ici, en te rendant la personne la plus heureuse et la plus riche alors que tu ne possèdes rien. La plus forte alors que tu es faible et malade. Naam. Tu te sens la meilleure alors que tu n'as rien. Subhanallah. Ça, c'est une ni'ma qu'Allah Ta'ala donne à chaque croyant qui est sincère avec lui. Contrairement à quelqu'un qui a tous les moyens, il se sent le plus malheureux. Tous les moyens et il fait la dépression. Tous les moyens et il arrête de pleurer. Tous les moyens et il veut se suicider. Alors que c'est un milliardaire. S'il va compter l'argent dans la banque, il ne peut pas compter. Subhanallah l'azim. Allahu Akbar. La ni'ma de la foi, la ni'ma de la croyance, la ni'ma de l'islam. De l'islam. Il n'y a que ça qu'en islam. Jamais dans le christianisme, tu peux trouver ça. Dans le christianisme, il n'y a que des questions qui n'ont pas de réponse. Non. Toutes les questions n'ont pas de réponse. À commencer par, qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? Il n'y a pas de réponse. C'est Jésus, c'est Gabriel, c'est la Trinité, c'est un, c'est deux, c'est trois, c'est Al-Muhim, la première question déjà n'a pas de réponse. Naam. Qu'en est-il maintenant, comme en islam, toute question a une réponse, bidnillah. Toute question, dans la aqida, la sira, le fiqh, l'héritage, tout ce que tu veux, la salat, tout est calculé, tout est clair, tout est avec des délils. Masha'Allah. Naam, c'est une ni'ma qu'Allah Ta'ala nous a donnée. Pour des milliards, on ne la changerait pas. Des milliards en euros, des milliards de kilos, des milliards de tonnes d'or. Des milliards de tonnes d'or. Pour sortir de l'islam, on n'acceptera pas bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Alhamdoulilah, je donne un conseil à sept se reconvertir. Tous les autres, ils sont reconvertis. Naam. D'aller doucement, doucement. Surtout, 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 de ne pas fréquenter n'importe qui. De ne pas fréquenter n'importe qui. De ne pas écouter n'importe qui. Les cours aussi. De ne pas rentrer dans n'importe quel salon. De ne pas dire, voilà, celui-là, puisqu'il parle avec les versets et les hadiths, donc c'est un savant. Non. Non. Les khawarij parlent avec les versets. Il y a quelqu'un qui parle avec les versets plus que les khawarij. Les tablir parlent avec les versets. Les Ikhwan musulmans, les versets. Les Mu'taz, il a les versets. Attention. Non. Mais, yani, comment suivre, yani, les selfs, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les enfants de leurs compagnons, les selfs, les pieux prédécesseurs, pour être sûr que tu suis le vrai islam, pas le faux, pas l'islam des sectes égarées, le vrai islam. C'est pour cela que vous devrez bien faire attention, yani, comment choisir nos amis et choisir ceux qui en écoutent, pour ne pas tomber dans l'égarement, bi'idhnillah ta'ala. Tfadl, inshallah, pour deux ou trois dernières questions. Tfadl.
Barakallahu fikoum, cheikh. Donc, question suivante d'un frère qui dit, plutôt, cheikh, je reviens sur la question de la sœur qui vous avait demandé, pouvez-vous expliquer, approfondir le quatrième caractéristique de l'hypocrite? Car dans un livre, j'avais lu également que cela parlait du fait de réagir avec mauvaise foi en cas de conflit. Elle dit qu'il lui semble que cette parole, elle a lu dans le livre Leçon de Tawhid de Cheikh Al-Wasabi. Barakallahu fikoum, cheikh.
J'avais dit que, est-ce que vous m'entendez? Non, j'avais dit que c'était de me donner le terme en arabe. Le terme en arabe. C'est-à-dire, elle est en train de parler que lorsque le prophète a dit Wa ida khasama fajr. Est-ce qu'elle est en train de parler de cela? Wa ida khasama. Dites-moi si c'est oui. Al-Fujur. Naam. Ida khasama fajr. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Répète ce qu'elle a dit.
Elle a dit donc, Cheikh, elle a dit qu'elle a lu que cela parlait du fait de réagir avec mauvaise foi, donc d'être de mauvaise foi. En français, ce qui veut dire, Cheikh, de mal réagir, pas forcément en étant grossier, mais en n'acceptant pas forcément le haqq, etc.
Non, il est possible que ça soit aussi cela aussi. Car le mohim, quand il se dispute, non, par exemple, il n'accepte pas le haq. Non, il n'accepte pas le haq et il voudrait yani, se donner à lui-même haq, même s'il n'a pas haq. Et comme ça, non, c'est pas quelqu'un qui est pieux. Quelqu'un qui est pieux, qui a la piété dans la dispute. Il reconnaît quand il a tort et il demande comme ça. Non. Donc ça, il se peut que, ou bien il devienne grossier, ou bien, d'après ce que a lu la sœur, yani, que yani, il a un mauvais comportement en général. Wallahu ta'ala alam.
Barakallah fikoum, cheikh. Question d'un frère qui dit, Cheikh, nos enfants adolescents font parfois semblant de faire la prière. Nous les avons grondés, punis, menacés à ce sujet. Et maintenant, ils font la prière, mais je me demande si cela est de l'hypocrisie et si au fond d'eux, ils sont sincères. Est-ce qu'ils font la prière par peur de nous? J'ai peur qu'ils la délaissent un jour ou l'autre quand ils seront plus grands. Ceci est-il de l'hypocrisie majeure? S'il prie par peur de nous, à savoir les parents, barakallahu fikoum wa ahsanallahu ilaykoum, cheikh.
Ce n'est pas de l'hypocrisie majeure. La preuve que ils croient en Allah au jour dernier, aux anges, aux prophètes, aux messagers, au paradis, au feu. Et quand il prie, des fois quand il prie yani, avec sincérité au moment de la prière. Et après, yani, ils veulent esquiver, ils veulent, et ils mentent, ils disent cela, ils disent cela. Chauffe, pour que vous sachiez, ça c'est général dans beaucoup de familles. Dans beaucoup de familles. Moi, des fois, à chaque fois quand je viens à la maison, je dis à l'un de mes fils, est-ce que tu as prié? Je veux dire, je lui dis, qui nous a guidés? Qui nous a guidés? Quand je lui dis qui nous a guidés, il a peur. Parce que s'il n'a pas prié avec nous à la mosquée, donc il peut pas répondre. Ça, c'est difficile. Là, je vais le coincer. Il va me dire l'imam. Si je lui dis non, c'est pas vrai, tu vois, tu as menti. Tu n'es pas venu à la mosquée. C'est X qui nous a guidés, ce n'est pas l'imam. Il va me répondre. Et X, c'est pas un imam quand il nous a guidés. Il s'appelle imam. Ah, sois le savant donc. Tu vois, maintenant tu m'apprends. Allah ibarak, saha. Je veux dire, les enfants, quand ils sont adolescents, yani, c'est très, très difficile avec eux. Il faut essayer de faire un maximum, de leur dire, prier, c'est le moment, lève-toi, va à la mosquée, va faire les ablutions, fais ceci, cela. Ce que tu vois, toi, qu'il fait, alhamdoulilah. Ce qu'il ne fait pas, ou en cachette, ça c'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça ne rentre pas dans la grande hypocrisie. Est-ce que vous m'entendez, Fawzi? Est-ce que vous m'entendez? Chauffe, pour vous dire qui va peut-être vous faire rire, mais ça rentre dans cela. Chauffe, il y avait un moment où moi j'avais mes enfants, ils avaient à peu près 12, 13 ans, 14. C'était, et j'avais d'autres de la famille de leur âge. Moi je prends mes enfants et je prends les autres qui venaient. Ils étaient 5 ou 6 ou 7. Et tous à peu près 12, 13, 14. Allez, venez, on va prier Tarawih. Bon, ils disent d'accord, Zama, ils font semblant de venir. Allah alam, c'est quoi leur niya? On rentre dans la mosquée, on dit Allahu Akbar. Dit Allahu Akbar pour commencer, allez, Salat al-Isha, ensuite Tarawih. Bon, ils font avec nous Salat al-Isha. Nous, quand on dit Allahu Akbar pour Tarawih, pour la première unité. Moi, je dis Allahu Akbar, je les vois, ils sont là, derrière moi. Ensuite, il y a beaucoup de monde, bien sûr. Ensuite, eux, l'âme, ils font seulement 2 rakat, ou bien peut-être une unité, subhanallah, mais ils quittent la mosquée. Ils vont jouer, 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 jouer. Ils entendent la récitation en entendant le haut-parleur. Quand ils entendent que c'est 8, là c'est 8, ils reviennent en courant. Quand je termine la salade, je les trouve derrière moi. Masha'Allah, ils ont prié tous les tarawih. Alors qu'ils n'ont prié que quoi? Que les deux premiers et la dernière. Naam. Subhanallah, une fois je me souviens, je suis sorti les chercher, je ne les ai pas trouvés derrière moi. Je suis sorti les chercher et je les ai trouvés tous. 5, 6 ou 7 cachés sous un camion. Il y avait un camion, ils sont rentrés sous le camion. Moi, je cherche à droite, à gauche. Où est-ce qu'ils sont ceux-là? On va vers un, ensuite j'ai découvert 5 ou 6. Ils étaient sous le camion. Non. Donc, il faut passer ton lien avec les adolescents. Jusqu'à ce qu'ils aient 18, 20 ans pour qu'ils commencent à comprendre c'est quoi, yani, c'est quoi vraiment la salade. Non. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: Cher, j'ai insulté mon père de kafir sous la colère. Que dois-je faire, sachant que la raison est qu'il a frappé ma mère et ne prie pas? Barakallahu fikoum, cher.
Demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Là, un père, malgré qu'il soit, on ne lui dit pas des choses pareilles. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon et demande-lui pardon à lui aussi. Dis-lui que c'était sous la colère. Smahli, demande-lui pardon. Là, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Fadda.
Cher Baraklov et comme cher, j'en profite pour vous rappeler la question, cher, d'un groupe de frères qui vous avait dit: Nous sommes plusieurs frères salafis à travailler dans le milieu de la sûreté aéroportuaire, donc dans les aéroports, au sein d'un des aérogares d'un grand aéroport de France. Chacun de ces aérogares est très grand et ils sont espacés les uns des autres et reliés par une navette, un petit train. Le vendredi, nous débutons le travail à l'heure du commencement de la khutba, du Jumu'ah, qui est organisée dans l'aérogare loin du nôtre, ce qui nous occasionne des retards, mais aussi des menaces de licenciement de notre employeur. Je précise que nous avons remarqué que beaucoup de musulmans travaillant sur notre aérogare l'après-midi délaissent la prière du Jumu'ah, Allahu Musta'an, par crainte pour leur travail et dû aux horaires fixés par les responsables de la khutba, qui sont trop tardifs par rapport au début de leur travail. Nos questions, chers, nous est-il possible de faire un second groupe au sein d'une musalla de notre aérogare, écarté de celui où se passe chaque khutba du Jumu'ah organisé dans l'aéroport? Nous commencerions plus tôt, tout en restant dans les conditions des temps à respecter, pour que la prière du Jumu'ah soit valable. Ainsi, nous éviterons tout problème. Naam, Cheikh a déjà répondu, mais il avait dit qu'il apporterait des précisions, et les frères voulaient des précisions. Donc, est-ce que le projet est réalisable et quels sont vos conseils? Est-ce que la distance entre les deux salles doit être de plus d'un kilomètre? Est-ce que le nombre de fidèles pour le deuxième groupe doit être de 3 minimum? Barakallahu fikoum. Alhamdoulilah, c'est que tu suis bien, apparemment.
Ce que je sais, est-ce que vous m'entendez? Non. Je dis à ces personnes, inshallah ta'ala, d'ici maximum une semaine, inshallah ta'ala, maximum une semaine, inshallah ta'ala, je vous ramènerai une fatwa, si Allah ta'ala veut, de Cheikh Djoum. Non, il faut attendre à peu près une semaine, inshallah ta'ala, je vous ramène, inshallah ta'ala, une fatwa. Sinon, moi, dans ma thèse de magistère qui est spécialement dans les ahkam al-jumu'ah, j'avais dit que rajih, c'est de ne pas prier jumu'ah quand on est 3, 4, 5, 6, 7. Même si le jumu'ah est valable avec 2 au minimum. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, il y a une règle qui dit en arabe, yajuzu taba'an, ma la yajuzu ibtida'an. Il y a des choses qui sont permises par continuité et qui ne sont pas permises par début. Je donne un exemple. Quand quelqu'un va au Hajj, c'est interdit par exemple, qu'il mette du parfum. Ça, après ihram. Mais maintenant, si l'on l'a mis avant, une minute avant l'ihram, il a mis du parfum, ensuite il est rentré dans l'ihram. Il y a toujours le parfum, ça sent toujours le parfum, il vient de le mettre il y a quelques secondes. Mais ce n'est pas haram. Pourquoi? Car c'est une chose que je ressens, je sens le parfum, je le ressens par continuité. Naam, il continue à donner de l'odeur, mais je ne l'ai pas mis après le ihram. Il y a des choses qui sont permises par continuité, qui ne sont pas permises par début. C'est permis, par exemple, si je tourne autour de la Kaaba, d'aller embrasser la pierre noire ou de la toucher. Par continuité, c'est-à-dire je suis en train de tourner autour de la Kaaba, touche. Mais je ne peux pas aller directement sans tourner, toucher la pierre noire et dire j'ai fait sunnah. El Mouhim, ici. La Jumu'ah, supposons que on a l'habitude de faire Jumu'ah dans cet endroit, cette mosquée. On est allé à la mosquée pour prier Jumu'ah. Il s'est passé quelque chose, sont venus juste 3 ou 4 personnes. On fait Jumu'ah, on ne fait pas. On fait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une base. Ce n'est pas à la base on est trois et on est allé faire Jumu'ah. Non. À la base on est nombreux et on a l'habitude de faire Jumu'ah. Mais il s'est passé quelque chose, ils ne sont pas venus, on est seulement deux. Deux, on ne va pas d'ici Jumu'ah. Comme ça disent les savants. C'est ce qu'il y a dans ma thèse. C'est pour ça que je dis à ses frères, maintenant étant seulement deux, trois, quatre, on ne peut pas faire Jumu'ah. Là, Jumu'ah, il faut être assez nombreux. Ça vient du mot shtima. On se rassemble. Ensuite, si vous aviez l'habitude et qu'ils sont venus seulement deux ou trois ou quatre, vous pouvez la faire. Mais vous, Yanni, vous ne pouvez pas maintenant parce que Yanni, à la base, il n'y a pas le nombre. Un mohim. Même si dans la sunna, il n'y a pas un nombre clair. Il n'y a pas un nombre clair. Je vous ramène, inshallah ta'ala, dans une semaine, maximum 10 jours, une fatwa pour être plus sûr. Idnillah ta'ala. Tfadval, inshallah ta'ala, c'est quoi la dernière question?
Cher, question d'une sœur qui dit: je souffre depuis 2 ans d'une maladie psychologique et celle-ci s'est développée et maintenant je fais des attaques de panique qui m'arrivent presque 30 fois par jour. Lorsque j'ai ces attaques, je sens que je vais mourir et aujourd'hui j'ai une peur horrible de la mort au point où je ne peux aller au cimetière ou sentir l'odeur du kaffour et du musc. Et je n'achète jamais de couvertures blanches et beaucoup d'autres choses bizarres, car tout cela me fait penser à la mort. Il y a des moments où je me dis qu'Allah n'a pas de rahma. Puis je fais l'isti'adha du shaitan. Je voudrais savoir, cher, serai-je châtié yawm al-qiyamah pour toutes ces pensées? Et je vous prie de faire des invocations pour moi. Barakallahu fikoum, cher.
Là, si tu m'entends. Pas mal là, si tu es là. Abou Zakaria, si tu m'entends. Alhamdoulilah. Essaye de relire le début de la question, Barakallahou fik.
Madame Cher, donc la sœur dit, je souffre depuis 2 ans d'une maladie psychologique et celle-ci s'est développée et maintenant je fais des attaques de panique qui m'arrivent presque 30 fois par jour. Lorsque j'ai ces attaques, je sens que je vais mourir. Et aujourd'hui, j'ai une peur horrible de la mort au point où je ne peux aller au cimetière ou sentir l'odeur du kafol ou du musc. Et je n'achète jamais de couverture blanche et d'autres choses, car tout cela me fait penser à la mort. Il y a des moments où je me dis qu'Allah n'a pas de rahma, puis je fais l'isti'adha contre Shaytan. Je voudrais savoir, cher, serai-je châtié yawm al-qiyamah pour toutes ces pensées? Je vous prie de faire des invocations pour moi, cher. Barakallahu fikoum.
C'est toujours qu'est-ce que je voulais dire. Non, je conseille à cette soeur, inchallah ta'ala, de faire des ruqya à elle-même ou bien devant une personne qui s'y connaît, inchallah ta'ala, car ce qu'elle a n'est pas normal. Non, ce qu'elle a, c'est pas normal. Et une personne normale ne ressent pas des choses pareilles. Des choses pareilles. Ensuite, par rapport à yani, le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de rahma, la personne devrait demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir dit une phrase pareille. Naam. Car cette personne, cette phrase, car une phrase pareille peut faire sortir la personne de l'islam. Une phrase pareille peut faire sortir une personne de l'islam. C'est pour cela que quand elle ressent cette chose dans le cœur, yani, elle essaie de chasser en disant Audoublamishtarajim, Audoublamishtarajim, Yarbi, Yarbi, vous avez la rahma, Yarbi. Je me contredis, je te contredis, tu dis Yarbi, Antarrahim, Naam, Innaka Antarrahmanurrahim, Naam, Yarrahman, Yarrahman, aide-moi, Yarrahim, aide-moi, Yarrahim, Yarrahman. Prouvez que. C'est comme ça que je me soigne d'ailleurs. Je me soigne contre cette khabita d'idées. Cette idée khabita, cette conception khabita de shaitan qui veut quoi? Qui veut me gâcher mon dîn. Qui veut me gâcher mon dîn. Je dois donc lui dire le contraire. Je dis à mon nefs et à mon shaitan, je lui dis le contraire. Et je dis à voix haute, Ya Rahman, Ya Rahim, aide-moi. Ya Rahman, ifta'aliya, Ya Rahman. Guéris-moi. Et Inch'Allah ta'ala, si c'est possible à la personne de faire ruqya bi'idhnillahi ta'ala et de prendre la douche avec de l'eau dans laquelle elle lira la ruqya, etc. De faire hijama aussi, de faire hijama. Naam. Ça lui sera très utile, Inch'Allah ta'ala, de se masser avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive dans laquelle elle crachera et lira. Lira al-Fatiha, ayatul kursi. قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس elle se masse avec نعم elle prend une douche avec de l'eau où il y a la ruqya tout cela inshallah ta'ala une semaine 10 jours si elle persévère beaucoup de choses vont partir d'elle elle va se sentir légère bi'iznillahi ta'ala puisse Allah subhanahu wa ta'ala lui donner une guérison totale incessamment puisse Allah azza wa jalla Allah al-adim rabb al-arsh al-adim puisse Allah ta'ala te donner à toi et à tous ceux qui nous écoutent et à nous tous, et à nous tous, une guérison totale de nos maladies, de nos maladies. Subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha إلا في ركوب تبولي كونتر ساندي. تفضل.
Afouane, cher, je n'aime pas vous retenir comme ça, mais c'est pour une question, une dernière question, une fois de l'écoum, cher. C'est une sœur qui demande, j'ai accouché au début du Ramadan dernier. Dès le début, je nourrissais un pauvre pour chaque jour manqué, car j'allaitais mon bébé. À partir du 15e jour de Ramadan, j'ai dû arrêter d'allaiter ma fille et je lui donnais le biberon. Aujourd'hui, puis-je tout de même continuer à nourrir un pauvre pour rendre mes jours de jeûne manqués, ou bien dois-je jeûner? Et qu'en est-il des compensations déjà faites pendant Ramadan, cher? Dois-je tout de même rattraper tout le mois? Et si je dois rattraper ces jours de jeûne? Afouane, cher, de vous avoir retenu, c'est juste que la sœur craint de laisser des dettes derrière elle. Voilà que l'on fait comme cher. Des dettes envers Allah Azza wa Jalla.
Fikoum barakallah. Chauffe. Il y a quelque chose de très très simple. Et que toute sœur, normalement, doit connaître la réponse, inshallah ta'ala. Et d'abord, je te pose la question à toi, inshallah, Abou Zakaria. Écris numéro 1, Abou Zakaria. Alors, suis bien avec moi. Elle a accouché au début du Ramadan. Ça, jusqu'à présent, elle a accouché. Taïeb. Quand une femme accouche, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Écrit Ibn Muhammad. Quand une femme accouche, qu'est-ce qu'elle a? Nifas. Qu'on appelle en français les louchis. Elle a les louchis, ça? Ça. Qui dure au moins, voilà, qui dure au moins tout le mois. Au moins. Non. Il est possible avant, mais au moins tout le mois. Donc la sœur. La sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Pendant les 15 premiers jours, naam, elle a nourri pour chaque jour, yani, qu'elle a mangé. Mais elle ne devait pas nourrir. Pourquoi elle ne devait pas nourrir? Parce qu'on nourrit quand on mange le ramadan à cause de l'allaitement. Mais ici, elle n'a pas mangé à cause de l'allaitement. Elle avait les louchis. Elle a mangé à cause des louchis. Il y a une grande différence. Vous avez compris? Quand est-ce qu'une femme, elle nourrit pendant le ramadan? Elle nourrit pendant le ramadan. Quand quoi? Quand elle ne jeûne pas à cause du bébé. Mais elle n'a ni, ni les menstrues, ni les louchis. Elle doit jeûner, mais elle n'a pas jeûné à cause du bébé. Elle devait l'allaiter. Il doit boire le lait de sa poitrine. Dans ce cas, elle nourrit, yani, un pauvre pour chaque jour qu'elle n'a pas jeûné. Mais maintenant, elle n'a pas jeûné à cause de l'allaitement. Yani, elle a jeûné à cause, elle n'a pas mangé à cause de l'allaitement, elle a mangé à cause des louchis. Ça veut dire que même si elle n'avait pas un enfant à allaiter, elle devait manger. C'était des louchis. Donc, je dis, les 15 jours dans lesquels elle a fait nourrir des pauvres, ça compte pas. Mais ça va lui compter comme des récompenses qu'elle va trouver au Qiyamah. Sinon, elle doit rattraper son mois, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Voilà, Ibn al-Jazayri, as-tu une dernière chose? Tfadlal, sur cette chose, sur ce que je viens de dire, as-tu une dernière chose?
Non, barakallah, fait comme cher, c'était très clair.
Alhamdoulilah, jazakumullah khairan, on doit arrêter ici, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, nous aider et nous donner la sincérité dans le dîn, et la sincérité dans son adoration, et la sincérité dans l'apprentissage de la science. Naam. Car la science et l'apprentissage de la science, c'est la lumière. Naam. C'est yani, le moyen par lequel on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. S'il n'y a pas la science et la vraie science, tout ce qu'on fait, c'est quoi? C'est des choses fausses, a'oudhou billah. Des choses qui ne reposent pas sur la charia. Ça rentre même dans les bid'a. D'où l'importance de la quête de la science, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à demander la science. Et il a demandé pour son visage azzawajal. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. D'accord, inshallah ta'ala, je vais voir.